dans le tempo. Vous êtes dans le 43e épisode. Ça commence maintenant. Cher Daz, comment ça va?
Hey Salman, ça va très très bien. Et toi, la pêche?
Écoute, très bien. Je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs dans DLT.
Oui.
DLT qui est le podcast des passionnés de musique, tu le sais?
Oui, Daz. Le meilleur podcast des passionnés de musique du monde.
Absolument. Est-ce que je rappellerai pas d'ailleurs un peu le principe? Tu sais, je le fais pas régulièrement.
Ouais, mais c'est vrai.
Je pense que ça peut être pas mal.
Pour les nouveaux arrivants.
Pour les nouveaux arrivants. Mmh. Et ben, tous les 15 jours, on reçoit des artistes, des professionnels du monde de la musique. Mmh. Pour essayer justement de mieux comprendre ce monde, sa richesse. Je crois que, enfin moi j'adore faire ça. Je sais pas toi.
Oui, bah c'est génial. Moi c'est un de mes podcasts préférés à enregistrer.
C'est vrai.
Et Dieu sait que j'en fais
c'est
des
plaisir.
Trucs.
Et bah, ça me fait plaisir.
Ouais. Ouais.
Parce
non,
que t'as franchement... une expérience dans le podcast longue.
Oui.
Et
un véritable plaisir de venir à chaque fois ici dans ces lieux hein, qui nous accueillent, ce sanctuaire.
Un petit bouclette.
Peu. À la bouclette avec une équipe au top. Non, je suis super content.
Et tu sais que t'es pas le seul à aimer DLT. Il y a des gens chez Canal+ qui aiment bien.
Oui, c'est vrai. Il fallait qu'on en parle.
On raconte.
Bah, on en parle. Bah oui,
on en
normal,
parle.
Normal. Effectivement, hier j'ai découvert que l'extrait de l'émission qu'on avait fait avec JB Anak
de D-Damage, absolument excellente émission, allez l'écouter,
avait été cité.
Oui, cité
chez Click.
Absolument.
Ouais,
nos amis de Click,
dans leur reco,
qu'on remercie,
qu'on salue.
Ça aurait été bien de nous citer aussi.
Mais... Ouais. Et de pas tromper le logo, les gars,
oui.
Quand même. Mais du coup, ça fait plaisir.
Ça
veut dire qu'effectivement, alors. J'imagine qu'il y a des mecs chez Click qui se sont dit tiens, JB Anak, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Et ça veut dire qu'ils sont tombés sur notre émission.
Absolument, on est bien référencés.
Super intéressant parce que le référencement est bon.
Ouais.
Maintenant, ouais, il y a plus qu'à citer les frères.
Et un content pour JB surtout parce que son livre Sale Chien, je sais pas. Notre invité Rémi qu'on présentera évidemment. Tu connais JB?
Je connais D-Damage. J'ai beaucoup écouté à l'époque. C'est un honneur de participer à cette belle émission, de marcher sur ses pas un petit peu.
Et JB a sorti un bouquin il y a quelques mois maintenant qui s'appelle Sale Chien, ouais. Et qui a été effectivement mis à l'honneur par Click. Et ça, je suis très content parce que
c'est très bien pour lui.
Bouquin.
Ouais. C'est absolument. Un très bon bouquin. Allez le lire. Moi, je l'ai dévoré. Pour rester dans la thématique des chiens et tout.
Très bien.
Je m'en lèche les babines.
Écoute, je fais sans transition.
Oui, voilà.
Je te laisse te lécher les babines. C'est difficile à dire. Et je vais présenter notre invité quand même.
Ah.
Donc, il s'agit d'Az, d'un artiste, d'un musicien, connu sous le nom de The Algorithm.
The Algorithm.
Ou The Algorithm, on sait pas comment faut le dire. Nous, moi, j'aime bien dire The Algorithm. Rémi, il hésite encore. Parce que oui, ton vrai nom, c'est Rémi Gallego. Est-ce qu'on peut t'appeler Rémi pendant l'émission, ça te va?
Vous pouvez m'appeler Rémi, The ouais. Algorithm, The Algorithm.
Algo ou pas, non?
Algo, pourquoi pas? The Algo, même.
The Algo.
Algo The.
Algo
The. Okay. Okay. Inventer d'autres au fil de l'émission, y a pas de souci.
Oh, t'es flex là-dessus.
Ok. Parfait. Je vais te présenter un peu Rémi, avant qu'on rentre un peu dans le vif vraiment de l'émission. On va parler de ta musique, on va parler de ta carrière, on va parler de business aussi, parce que c'est un truc qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est comment construire une carrière, comment on s'entoure, etc. Mais rappelons déjà que tu es musicien, donc tu es principalement Rémi derrière le projet donc artistique The Algorithm, que tu mènes depuis bientôt 14 ans, je pense, 2009 à peu près.
Alors le premier album, c'était une démo à l'époque,
ouais.
J'appelais pas vraiment encore ça un album. Je crois que c'était 2008 plutôt.
Okay, même 2008.
2008, ouais. The Doppler Effect, un album que j'avais posté à l'époque sur MySpace.
Ah
wow.
Voilà.
Les vrais ont fait ça.
Ouais, ouais. J'avais mes meilleurs amis dans mon top 10, c'était génial à l'époque. À l'époque du CSS sur le MySpace, c'était génial.
Et ton truc à toi, Rémi, avec The Algorithm en particulier, c'est de mélanger le métal, en particulier le métal progressif, avec la musique électronique. Une proposition qui existe, mais qui est relativement rare quand même, et qui t'a permis d'ailleurs de tourner dans le monde entier, le Japon, l'Australie, le Canada. T'as plus de 400 concerts derrière toi. T'as énormément de...
Ah, je les ai pas comptés, je pense
ouais.
Que ouais, ça doit tourner autour de ça.
Ouais.
300, 400, quelque chose comme ça.
Évidemment, t'as plein d'EP et d'albums aussi à ton actif. J'en ai compté 5 sous le nom The Algorithm. Tu me dis si ça te va.
Oui, c'est ça.
On peut rajouter les deux premiers albums un peu démo, effectivement.
C'est ça.
Ça monte déjà à 7.
Donc à cette époque-là, t'avais pas encore trouvé l'identité Algorithm.
Lors des démos, tu veux dire?
Ouais.
Si j'avais déjà le nom, j'avais déjà un petit peu le concept.
D'accord.
Mais c'était très mal produit pour l'époque.
Je suis assez d'accord parce que je les ai réécoutés. Voilà. Et on voit le gap franchi en 2012.
Bah, disons que j'avais, à l'époque, j'étais dans une résidence universitaire. Et j'avais littéralement les chaînes IFI que j'avais reçues pour mes 14 ans.
Ouais.
Donc des vieilles chaînes IFI Sony, bien dégueulasses, il y a des sons. Et je mixais des trucs et il y a des sons, des fois, quand je réécoutais chez des potes, je savais même pas qu'ils étaient là. Genre des sons de Tom.
Ouais.
Qui réapparaissait comme ça dans la musique. Donc ça, c'est cool, catastrophique.
Parce que ça participe de ce qu'on dit, nous, de faire de la musique quand on a envie d'en faire.
Mais complètement.
Et de pas forcément attendre d'avoir le matos.
Mais il fallait le sortir. Et je suis content qu'il soit encore, d'ailleurs, disponible sur les plateformes, ces albums.
Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui l'écoutaient beaucoup à l'époque, notamment sur MySpace, et qui sont très contents de redécouvrir ces albums-là, ces morceaux-là. Puis c'est un peu une part d'histoire aussi.
Ouais, c'est chouette.
Ça montre l'évolution du truc. Donc aucune honte, aucune...
Ça c'est cool, parce qu'il y a des artistes qui auraient dit « Ouais, bon, les premiers trucs, je vais les enlever parce que bon, ça fit plus trop avec mon identité. » Et non, c'est cool de les laisser.
Après, du coup, Spotify les met un peu moins en avant par rapport aux albums plus récents et mieux produits. Donc effectivement, si tu veux les écouter, il faut un petit peu les chercher, quoi.
Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que tu as deux albums sous l'alias Boucle Infinie, puisque tu fais d'autres styles musicaux. Là, on est un peu plus synthwave. J'ai trouvé des influences même hip-hop, voire lofi, tu vois, niveau sonorité, au niveau rythmique aussi même. Je sais que c'est pas forcément ce dont tu te revendiques, mais j'ai trouvé ce côté-là en tout cas.
Boucle Infinie, c'est à la base, c'est vraiment parti de ce concept de vouloir mélanger des influences synthwave avec ce côté peut-être plus post-rock. Et effectivement, après, il y a plein d'autres influences qui sont venues se greffer. Tu parlais de lofi, tu parlais de hip-hop, mais c'est pas vraiment voulu à la base. C'est vraiment fait au fil du temps.
C'est organique, quoi.
En fonction des musiques que j'écoutais à ce moment-là, quoi.
Et ce qu'on peut ajouter, c'est parce qu'il s'arrête pas là seulement, Rémi. C'est que, en parallèle, tout au long de ta carrière, t'as composé des OST pour des jeux vidéo. Tu t'es occupé, par exemple, de la BO de Hacknet, de Hell Is Other Demons. Plus récemment, de The Last Spell, qui est sorti il y a un mois à peu près. Un gros jeu indé français, d'ailleurs.
Ah, et tu as sorti le t-shirt, parfait.
On essaiera peut-être de faire un petit zoom en post-prod, François, si tu veux zoomer sur le t-shirt de The Last Spell.
Non, pas trop mon ventre.
Franchement, ça fait, en disons à peu près 14-15 ans, si on met bout à bout tous les projets, productifs, leur éminent, c'est...
Ça commence à faire pas mal, ça commence à faire pas mal d'albums. Après, on a charbonné, on a fait ce qu'il faut, quoi.
Ouais. Et pour terminer de te présenter, j'ajoute un élément que je trouve intéressant et dont on parlera un peu plus en profondeur dans l'émission. C'est que certes, tu es artiste, mais tu es aussi développeur dans l'informatique en parallèle, tu as un autre métier. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as vécu uniquement de la musique pendant des années. Tu vivais de ta musique et tu as fait aussi une forme de choix. Alors, il y a aussi eu la période Covid, etc. On en reparlera, qui a certainement accéléré les choses. Et à un moment, tu t'es dit, moi, je veux retrouver une forme d'équilibre dans ma vie et je vais avoir un autre taf en parallèle.
Ouais, complètement. En fait, j'avais toujours un petit peu l'informatique. Ça a toujours été ma passion. Ma formation, elle est vraiment basée sur l'informatique aussi. Et à un moment, c'est vrai que dans la musique, j'avais tendance à accepter un petit peu n'importe quoi. Et c'est vrai que ces moments de flottement où, pour manger, t'es obligé d'aller mixer un groupe que t'aimes pas forcément, où t'es obligé de travailler sur un type de projet qui te parle pas forcément, ça m'a un peu pas dégoûté de la musique, mais quand tu passes un mois sur un projet qui te parle pas, derrière, t'as pas forcément envie de composer un album juste après, quoi. Ouais. Donc, retrouver ces équilibres avec vraiment une activité dans l'informatique qui me ramène de la thune, hein, on va le dire honnêtement. Et ce monde musical qui est vraiment là où je peux vraiment être créatif et vraiment faire ce que je veux sans avoir un petit peu cette anxiété de résultats,
marrant,
de finances.
C'est-à-dire que t'as réussi à faire de ta passion ton métier et au final tu t'es dit j'ai envie que ça reste
ma
passion.
Étonnant. En fait, j'ai fait un peu l'inverse de ce que la plupart des gens font. En général, les gens, ils ont un taf alimentaire, ils font de la musique et ils essaient de vivre de la musique. Moi, j'ai fait l'inverse.
C'est cool, c'est une super approche.
On en reparlera parce que c'est franchement impressionnant, effectivement, comme sujet. De toute façon, on va parler de ta musique, de musique électronique, de musique de jeux vidéo, parce que je sais que c'est une grande influence pour toi, de métal, évidemment, et puis tous ces aspects, équilibre, mener une carrière, trouver un label, avoir une couverture médiatique. En particulier, c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir, quand on a une proposition musicale qui est, si ce n'est radicale, en tout cas originale, pas mainstream, et parfois il est difficile de défendre aussi dans le monde musical, tu vois. Mais pour commencer, première partie sur vraiment ta musique en tant que telle, et il faut qu'on débute avec un truc, parce que c'est les origines un peu, c'est ton rapport à la musique de jeux vidéo. Est-ce que c'est un peu là, de ça que naît ton amour pour la musique, c'est avec le jeu vidéo et...
Alors je pense que quand j'étais petit, la musique, en fait, je m'en foutais un peu. Moi, j'étais plutôt, je passais beaucoup plus de temps en fait sur ma Super NES, sur ma PlayStation, à jouer aux jeux vidéo, ou même sur l'ordi. En fait, déjà à l'époque, je m'intéressais vachement à l'informatique. J'ai codé mon premier site sur les Simpsons à 12 ans, tahitibobland.free.fr.
Il est toujours en ligne ou pas?
Non, il est plus en ligne. En fait, sur ce site, tu pouvais télécharger des épisodes complets des Simpsons en français.
Ah ouais.
Donc c'était complètement illégal, bien sûr.
Non.
Le site a duré une semaine, quoi. Mais c'était là, quoi.
Ah, le .free.fr, c'était la jungle. Il y avait plein de trucs. Hein.
C'est vrai que... ouais, il y avait un peu tout n'importe quoi.
Ouais.
Mais du coup, ouais, ce rapport à la musique, je l'avais pas forcément quand j'étais petit. Il est venu un peu plus tard avec ma crise d'adolescence, quand j'ai commencé à écouter tous les groupes de néo-metal de l'époque, donc les Linkin Park, les System of a Down. Ouais.
Est-ce qu'on peut juste rappeler, si t'es ok avec ça, ouais. En quelle année tu es né, que moi je puisse situer
la génération
par rapport à la chronologie.
89.
Ok. Ouais. D'accord.
89. Donc du coup dans les années 2000,
ouais.
C'est vraiment là ouais, où il y a eu toute la grosse vague néo.
Ouais.
Et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Donc pas forcément avec les jeux vidéo au final, même si j'y étais vachement exposé en étant petit, okay. Forcément. Mais c'est pas vraiment.
Mais toi, en fait, quand t'as joué, en fait, finalement, aussi, t'avais 10 ans en 99, donc l'essentiel de tes années gamer, c'était déjà avec des consoles, avec des CD.
Ouais.
Et donc, de la musique orchestrale. Enfin, t'avais de la place pour mettre des waves et des.
Ouais, complètement. Ouais, après,
c'était pas du MIDI, console 8 bits, quoi.
Quand j'y repense, ce qui me revient le plus, c'est peut-être toute la saga Final Fantasy.
Ah bah,
je pense que c'est un truc qui revient beaucoup.
Ouais.
Final Fantasy 6 et 7. Surtout Metal Gear Solid aussi,
les gros titres PlayStation.
Mais j'avais une Super NES aussi, donc j'ai pu jouer Secret of Mana, Donkey Kong Country aussi, l'OST est incroyable.
Ouais, bien sûr. Tout le jeu est incroyable. C'est injouable aujourd'hui, mais incroyable pour l'époque.
Et mes parents avaient un Atari ST, donc j'étais très petit, j'ai des souvenirs très très vagues, quoi, mais il y a des jeux.
1001 ou 1040
Ah, ça je sais pas.
Aïe. Donc il y avait un héritage geekos quand même.
Surtout que l'Atari ST est resté très très longtemps dans les studios parce que c'était une machine pour faire du son, l'Atari ST à l'époque.
D'ailleurs, c'est pour ça que mon frère l'a vendu à son pote, parce que son pote voulait faire de la musique avec.
Ouais, voilà, d'accord.
Donc moi j'étais très triste, mais du coup on m'a offert une Super Nintendo pour compenser, quoi.
T'as gagné sur le plan gaming, tu gagnes au chaud.
Je pense.
Ouais.
Est-ce que d'ailleurs on pourrait pas, parce qu'on aime bien dans cette émission écouter un peu d'extraits musicaux, essayer d'illustrer un peu ce dont on parle, et peut-être là on parle de tes influences, avec on comprend bien le néo-métal et la musique de jeux vidéo des années 2000 en particulier. Est-ce que t'as un ou deux morceaux métal qui est un peu formateur pour toi, un peu au début, même si, qui forcément correspond pas forcément encore aujourd'hui à ce que tu aimes, hein, mais qui a été important pour toi? Et pareil dans le jeu vidéo, peut-être une OST, une track, un track.
Alors dans Néo, je dirais c'est difficile dit comme ça.
Ouais.
Parce que t'aurais dû me prévenir avant.
Mais j'y pensais pas moi-même.
Ouais,
mais
c'est la beauté de l'émission.
Mais oui, absolument.
Ça. Après il y a peut-être il y a un morceau. La première fois que je l'ai écouté, je savais que j'allais adorer ce groupe.
Ouais.
C'est le morceau Somewhere I Belong de Linkin Park.
Et bah écoute.
Un grand classique. Et dans les jeux vidéo, je dirais Final Fantasy VII en fait. C'est,
et bah on va s'écouter.
L'OST c'est.
C'est quoi, c'est Nobuo Uematsu?
Ouais,
sur
exactement.
Uematsu, bien sûr.
Et ben un petit morceau, un petit extrait de Linkin Park, Somewhere I Belong, et puis après on enchaînera avec du Final Fantasy.
C'est longtemps.
Je me permets juste d'avancer un tout petit peu parce qu'on limite les extraits. Ah, quoique.
C'est toujours cool, hein, maintenant. C'est intemporel.
Allez, j'avance un petit peu. Ok, bon, c'est tout adolescent qui a grandi dans cette époque connaît. Moi, le premier.
Ouais.
Donc ça a été important pour toi.
Ouais, Linkin Park. Et c'est marrant parce que dans Linkin Park...
Ouais.
C'est un truc que j'avais pas forcément remarqué au début parce que, je sais pas, j'étais trop jeune, je m'en rendais pas compte, mais il y a vraiment toute une dimension électronique qui est vachement importante.
Oui, à fond, absolument.
Et je pense que ça a dû jouer peut-être plus tard dans mes goûts et à la manière dont je me suis aussi orienté vers la musique électronique un petit peu.
Ben c'est on peut pas parler forcément de pionnier, mais par contre en termes de popularisation dans la musique mainstream, Le fait effectivement d'intégrer des éléments électroniques, d'avoir un DJ sur scène, d'adopter des éléments hip-hop aussi, ça se faisait. Hein. Mais pour cette époque-là, pour la popularité de ce mélange, je pense que Linkin Park a été important effectivement.
De toute façon, ils ont fait après des feats dans tous les sens avec...
Jay-Z, mais il y a eu même un album commun, tu sais, enfin une espèce, je sais pas si c'est un remix, si ils ont vraiment bossé ensemble, mais il y a eu un truc comme ça.
Je crois que l'album après Hybrid Theory, c'est un album de remix, de track de Hybrid Theory justement,
ah,
où il y a
ça.
Que des remix électroniques.
Et avec des trucs de Jay-Z. Je crois qu'il y a un délire comme ça.
Jay-Z s'associe avec des artistes un peu genre R. Kelly, tout ça, tu vois.
Ok. Ouais.
Autre temps, autre mode.
De toute façon, un autre sujet. Et sur Final Fantasy, alors, le problème, c'est que je sais pas, tu vois, sur Spotify, est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'il y a les originaux vraiment? Je crois qu'il y a eu des mots sur le remake. T'as un thème en particulier qui t'avait marqué sur FF7?
Bombing Mission, je crois que ça s'appelle. J'ai plus les titres exacts en tête. C'est peut-être un peu trop calme.
Ah, attends. J'avance.
Ah, ce thème est très cool.
Ça fait vachement midi en fait.
Ah, c'est ça en fait, tu parlais de thèmes orchestraux, mais au final c'est des sons midi quoi. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça rend tellement bien quoi, alors que c'est des sons un peu cheap quoi. Ah, ça c'est incroyable ça. La boucle derrière là de.
Ça te parle ?
Elle est géniale, c'est excellent.
Je mets un autre extrait. Ça c'est ultra connu. Parce que tu te bastonnais sur FF7, ça te rappelle des souvenirs d'Az?
Ouais, moi j'ai détesté ce jeu, donc
c'est
un très bon souvenir. Ouais, c'était trop long, ça me cassait les couilles. Mais j'étais vieux et con à l'époque. Non, moi je suis pas team FF, hein, vraiment.
Que les
souvenirs. Non, mais incroyable, les souvenirs, reconnaître quand même que ça fonctionne.
Incroyable. Bien sûr que ça fonctionne.
Vraiment, mais je l'ai pas fini. Moi je me suis arrêté au deuxième CD, il y en avait 18.
T'exagères un tout petit peu, je trouve.
Il y en avait deux sur PlayStation, il y en avait deux, non?
Non,
c'est ça?
Ah non,
non,
il y en avait quatre.
Moi je l'avais pas directement, j'ai joué chez les copains.
Ouais, bah encore pire. Non, il y en avait quatre.
Et si tu rayais un des CD, t'étais dans la merde, tu pouvais plus jouer.
Ouais, non, gros souvenir. Final Fantasy, moi c'était les combats aléatoires qui me cassaient la tête, vraiment. T'avances dans un couloir où t'es déjà passé 57 fois et c'est parti. Flemme.
Nouveau FF qui sort d'ailleurs bientôt.
Oui. Le 16.
Ça, ouais.
Ce qui montre la créativité du milieu du jeu vidéo d'ailleurs.
Ça c'est catastrophique.
Ouais.
Moi j'avoue que j'ai abandonné à partir du 12, je crois.
Ouais, moi j'ai abandonné au 7 à peu près. Donc, ce qui m'a pas empêché de faire des OP pour FF14.
Ah,
bah
voilà,
de l'argent, c'est ça. Un professionnel, met ses bouts de côté, bien sûr. Hein. Mais je suis pas trop FF, moi.
À part quand il y a de l'argent derrière. Alors, voilà, t'es plutôt FF.
Bah là, c'est le capitalisme. Vive dans la société.
Et de cet amour pour le néo-métal dans un premier temps, la musique de jeux vidéo, comment ça se transforme? Tu te mets à faire de la musique toi-même. D'après ce que j'ai compris, c'est par le métal, surtout que ça arrive. Tu te mets à la guitare,
c'est
et
ça.
Tu te réunis avec des copains, tu fais un groupe. C'est
ouais,
ça comme
on
ça
a fait
passe.
Un groupe. En fait, à l'époque, je commençais déjà à écouter beaucoup de métal un peu plus extrême.
Ouais.
Donc beaucoup de metalcore, de death metal. Et donc on s'était réunis avec des potes et on avait fait un groupe de metalcore à l'époque. Et en fait, il fallait trouver la personne qui allait composer les morceaux. Et c'est vrai que je me suis un peu mis en avant. Et j'ai voulu faire ça, j'ai voulu composer les morceaux. Et à l'époque, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Guitar Pro. Mm-hmm. Je sais pas si ça vous parle.
Bien
Guitar
sûr,
Pro, bah, ça existe toujours.
Bien sûr. Oui. Il est guitariste.
Et le son était horrible, justement.
Le
c'était
son
une espèce de MIDI, mais tu pouvais par contre
horrible.
Composer,
c'est
génial. Avec, t'avais une espèce de partition.
Exactement.
Tu pouvais faire des tablatures. Enfin, c'est assez génial comme logiciel, mais le son était horrible.
Tu pouvais composer des parties de guitare, mais tu pouvais aussi composer des parties de batterie intégralement, de la basse. Ouais. Il y avait même des cuivres, je crois. Ouais. Du coup, ça avait un son cheapos, General MIDI, comme ce qu'on a pu écouter sur Final Fantasy. Là. Et j'ai commencé à composer sur ça, pardon.
C'est ton premier do, quoi, en fait, ton premier séquenceur.
Exactement.
C'est dingue, okay.
Et en fait, je composais des trucs qui étaient beaucoup trop complexes pour moi, pour, voilà, même pour le groupe. Personne n'arrivait vraiment à jouer ce que je faisais parce que c'était beaucoup trop compliqué à apprendre, quoi. Mais je m'en foutais, en fait. Moi, je voulais juste faire des morceaux, les écouter, ça me faisait triper. Et je faisais ça, et je me suis très vite rendu compte que j'étais beaucoup plus fort pour programmer des parties de guitare.
Que pour les jouer
en midi, que pour les jouer au final. Ouais. En fait, je me suis très vite rendu compte de ça. Et donc du coup, plus tard, quand le groupe s'est séparé, Moi, j'ai voulu continuer à faire de la musique et là, je me suis mis à utiliser des vrais DAW. Donc, au début, Cubase, puis très vite Ableton, en fait, pour le côté musique électronique aussi. Et en fait, j'ai continué dans cette même approche de me dire, je suis assez fort pour, au final, programmer de la musique en MIDI. Donc, je vais tirer parti de ça. Et j'ai commencé, donc à l'époque j'étais toujours dans le métal, j'ai commencé à écrire des morceaux de métal en programmant littéralement un peu tout, quoi. En programmant les batteries, en programmant les synthés, en programmant les guitares même.
Et t'as une formation musicale ou t'es autodidacte ?
Voilà, d'accord. Non, pas du tout. J'ai fait un an de solfège et un an de guitare, mais j'étais vraiment très nul. Je suis pas passé à l'année d'après parce qu'il y avait un examen à la fin de l'année. Ouais. J'ai complètement échoué, quoi. J'étais très mauvais.
Mais du coup, t'es resté dans... Ça, c'est cool hein, aussi. Moi, j'aime bien justement les gens qui prennent des chemins de traverse comme ça.
Ouais. C'est le côté guitare classique, tu vois, solfège, ça m'intéressait pas du tout. Ouais, et c'est vrai que quand le métal est arrivé, tu te dis, ça, c'est de la vraie musique, ça me parle.
Je trouve ça intéressant... déjà, je savais pas que c'était par Guitar Pro que t'avais commencé, mais j'ai l'impression que c'est avec la MAO, la musique assistée par ordinateur, donc le fait de commencer à bidouiller sur ton ordinateur, que la musique électronique commence à prendre une part importante dans ton travail. C'est ça qui s'est passé?
Ouais, complètement. C'est vrai que, à l'époque, j'étais effectivement beaucoup dans le métal, mais je commençais à écouter un peu de musique électronique, beaucoup d'Aphex Twin, Birds of Canada, mon Daft Punk, Danger.
Bien Square Pusher aussi.
Square Pusher, bien sûr. Venetian Snares aussi. Pas mal de breakcore et tout.
Ça me donne envie d'écouter tous ces groupes, c'est trop trop bien.
Trop cool.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment cet aspect un peu musique complexe qui me parlait plus que la musique électronique EDM, tu vois, où c'est plus dansant. Ça me parlait pas trop à l'époque. C'était vraiment plus le côté compliqué avec des rythmes de tous les côtés. Ça part dans tous les sens, on comprend rien. Ouais. Trop bien. Du coup, ça me parlait. J'ai trouvé un parallèle entre la complexité au final du métal progressif et la complexité quelque part de cette musique électronique. Et j'ai commencé à me dire, ça peut peut-être marcher ensemble en fait. Ouais. Et j'avais ce background, d'être déjà assez bon avec les ordi en général, puis avec le fait de programmer des choses en MIDI, etc.
Tu penses, ça, c'est un truc dont on parle pas assez, à mon avis. C'est cette culture geek, entre guillemets, mais geek vraiment nerd, même aujourd'hui, on dirait, lié à l'informatique. À l'époque, le geek était plus lié à l'informatique. Aujourd'hui, c'est devenu un peu la culture populaire, en fait.
Ouais.
Le geek. Donc, ce côté peut-être plus nerd, comment il a nourri beaucoup de musiciens, en fait, je pense. Et que, aujourd'hui, les outils en MAO, les plugs, etc., sont souvent accessibles avec des belles interfaces, etc. Ça a été un peu moins le cas à une époque. Et fallait être quand même un bon geekos pour se pencher sur tout ça, quoi.
C'est surtout que quand t'étais un geek, tu savais où trouver ces logiciels gratuitement.
Ça joue
oui,
aussi.
Parce que Cubase, ça coûtait une couille, hein. Donc, il fallait mettre une clé USB, enfin, sur le truc.
Avec iLock.
C'était ultra relou. Fallait faire sauter les verrous et tout. C'était giga chiant. Déjà, rien que ça, tu te prenais la tête, quoi. Donc, après, il y avait les VST à télécharger, les machins, les trucs.
Mais même les VST, moi, je sais que mes premiers albums, il y a pas un seul son qui vient dans le logiciel que j'ai payé, quoi.
Est-ce que tu te sens coupable aujourd'hui? Est-ce que...
ça m'a pris très longtemps avant de faire le pas et acheter Ableton, je l'avoue publiquement. Mais non, maintenant je me suis professionnalisé. Hein.
Ouais. Très bien, très bien. T'as plus aucun plug craqué sur ton ordinateur, bien sûr.
Bien sûr.
C'est bien. Mais tu penses que c'est ta passion pour, enfin ta passion, je sais pas si on peut parler de passion, mais en tout cas ton intérêt pour l'informatique qui a nourri ta pratique musicale ou l'inverse? Est-ce que c'est parce que t'avais envie de bidouiller avec la musique que t'as un peu plus fouillé l'environnement informatique?
Ah oui, complètement. Moi, c'est parce qu'il y avait cet aspect, t'es sur un dos, t'as des boutons de partout, tu fais un peu n'importe quoi. C'est vraiment cet aspect jouer avec l'ordinateur, moi qui m'a plu dès le début, quoi. Plus que l'aspect musical ou parce que effectivement j'avais pas forcément ce background d'être dans la musique.
Ouais, de parcours académique, solfège, etc. Mais du coup, au niveau de ta machine pour composer, est-ce que rapidement tu t'es dit, parce que moi ça m'intéresse aussi.
Ouais, grave.
Rapidement tu t'es dit qu'il te fallait quand même une carte son ou tu l'as fait vraiment avec
Asio for All?
Ouais, au tout début c'était Asio for All, c'est clair. Puis j'ai acheté la première carte son que j'ai acheté, c'est une Toneport GX. En fait, c'était une toute petite carte son de Line 6 où littéralement t'avais un output USB, un jack pour mettre ton jack guitare et je crois un truc pour mettre tes headphones, mais c'était même pas le gros jack headphones, quoi. C'était le tout petit.
Le mini jack.
T'avais rien. C'était vraiment.
J'ai utilisé une carte son Line 6 dans ma vie à un moment dans le boulot. Et c'était horrible. C'était pas bien.
Ça a fait le taf.
J'imagine. Et tu sais quoi, les gars, j'ai envie d'écouter, parce qu'on a évoqué plein de groupes géniaux tout à l'heure. T'as parlé d'Aphex Twin, de Square Pusher, de Borders Canada. Allez, un ou deux morceaux, peut-être un ou deux extraits de trucs que t'adores dans ces groupes-là. T'as quelques idées de...
Ouais, peut-être qu'on écoute sa musique aussi, tant qu'à faire.
C'est vrai, j'avoue. Allez, on commence, tu sais quoi? On va prendre... Allez, tu as raison quand même. Parce que j'ai envie d'écouter de la musique, là. Et on va commencer. On est là pour ça. Il y a tes deux premiers albums démo. Je trouve que ça rend pas effectivement hommage à ta musique aujourd'hui, parce que, bon, c'est pas encore ultra bien produit.
C'est bien, t'es honnête, c'est bien, je le prends.
Par contre, il y a un album sur lequel il y a un morceau en particulier qui a été important pour toi, parce que c'est un de tes premiers succès, je pense. C'est sur l'album, donc, Polymorphic Code. L'album s'appelle, le morceau s'appelle Trojans, en particulier. Déjà, à l'époque de sa sortie, tu sens qu'il y a un truc qui se passe avec ce morceau?
Un petit peu. Ah, je t'avoue que j'ai pas forcément senti qu'il y avait quelque chose de différent. Pour moi, c'était plus une progression.
Ouais.
Mais, en fait, c'est surtout cet album, c'est mon premier album parce qu'il est sorti sur un label.
Ouais.
En fait. Donc c'est vraiment ça qui pour moi officialisait un peu le projet, tu vois. Ouais. Puis ce morceau venait avec un clip aussi. Ouais. Et il y avait voilà toute une démarche marketing du label aussi. Donc ça, j'avais vraiment un petit peu ouais effectivement la sensation d'être pro quoi après cet album là.
En tout cas donc c'est sur l'album Polymorphic Code qui sort en 2012 et on s'écoute un extrait de Trojans.
Ah ouais. Oh, mais les deux oreilles. Le mariage, ouais, ok. Effectivement, hein.
C'est bien, hein.
Ah ouais,
oh, c'est non, trop bien. C'est d'ailleurs, je me suis permis, tu vois, on a passé une minute, mais en fait, parce que ta musique, je trouve, il faut l'écouter sur la longueur. C'est difficile de prendre 20 secondes de ta musique parce qu'il y a beaucoup d'évolutions. On voit d'ailleurs l'influence métal progressif. Tu joues beaucoup autour des rythmes, autour des breaks, autour des silences. Ouais. On l'a entendu sur ce morceau en particulier. Ça mérite d'être entendu un peu pour voir la richesse, en fait, globalement, ouais. Qui ressort.
C'est pas, en général, c'est pas une musique que tu vas mettre en arrière-plan pendant que t'es en train de faire autre chose ou quoi. Faut peut-être aussi prendre le temps de l'écouter, comme tu dis, se concentrer un petit peu dessus. Ouais.
Cet album, est-ce qu'il y a un morceau dont t'es fier en particulier? Peut-être que c'était celui-là d'ailleurs, je sais pas.
Sur cet album en particulier, je dirais peut-être, ouais, Trojans ou même Handshake, je crois que c'est le premier morceau.
Absolument.
Qui du coup paradoxalement c'est le dernier morceau que j'ai écrit pour cet album et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un petit peu l'expérience d'avoir expérimenté avec tous ces trucs pendant toute la composition de l'album et de tout mettre un petit peu voilà à profit sur ce dernier morceau quoi.
Et ben on s'écoute un extrait dans le check.
Ouais.
Allez, c'est parti.
L'intro est très longue donc tu n'hésite pas
allez, j'avance
à scroller dedans.
J'imagine ça en jeu vidéo, ça doit être infernal. J'aimerais bien voir les sessions. Juste pour voir le nombre de pistes avec tous les blocs et tout.
Moi, je ne peux plus les voir, justement, les sessions.
Parlons-en de ta manière de travailler. J'imagine que ça a évolué, d'ailleurs, depuis 2012, en réalité. Cet équilibre, est-ce que c'est toujours des vraies guitares, déjà, qu'on entend, que tu joues toi-même?
Alors, ça m'arrive d'enregistrer, j'avoue, j'enregistre un coup de guitare et je le duplique un peu partout. Ouais. Ça m'arrive toujours de faire ça.
Okay.
Après, il y a des moments où il y a des vraies guitares. Ça, c'est un truc que j'ai voulu apporter aussi sur mes derniers albums, d'avoir un côté un peu plus organique et du coup d'enregistrer des parties guitare un peu plus longues avec des vrais riffs, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment littéralement des fois beaucoup de guitares programmées, mais aussi beaucoup de guitares complètement éditées, qui sont en fait vraiment impossible à jouer, quoi, vu que c'est édité de partout.
Quand tu parles de guitare programmée, c'est-à-dire des plugins de simulation de guitare?
Ouais, exactement.
Parce que ça m'intéresse d'en discuter avec toi. C'est pour moi encore un truc qui marche pas complètement dans la MAO. Peut-être que tu vas me dire que c'est l'inverse d'ailleurs, mais autant les simulations de synthétiseurs, même de piano analogique, enfin d'acoustique, je veux dire, c'est extrêmement bien fait aujourd'hui. Même sur la basse, je trouve qu'on a des trucs pas mal. Il y a plein de trucs à base de sampling pour plein d'instruments qui sont
géniaux.
Sur
la batterie, c'est génial.
Sur la batterie, c'est génial, évidemment. Tu peux même avoir des cuivres, des vents, des cordes, etc., symphoniques, des trucs incroyables. Alors souvent, c'est des banques de sons samplées, etc. Ça fonctionne très bien. Sur la guitare, j'ai jamais encore, je t'avoue, et pourtant j'en ai vu quelques-uns, été convaincu parce que les bruits de manches, les glissés, les trucs comme ça sont, et la main droite aussi, c'est très difficile, je trouve, à reproduire en logiciel, en plugin. T'as trouvé toi des trucs qui te conviennent?
C'est très difficile à reproduire, comme tu dis. Il y a des logiciels que j'utilise, donc il y a un VST qui s'appelle The Odin. Okay. The Odin 2 même, mais qui est vraiment pour le coup taillé pour le métal, c'est-à-dire que c'est un son de guitare très très typé métal. Tu veux qu'ils ont, je crois qu'ils ont enregistré une 8 cordes pour faire cette librairie, et c'est un truc qui est sorti il y a 2-3 ans. Je pense que ça a mis à l'époque. Je sais que c'était très difficile de trouver des choses qui sont qui te paraissent cohérentes. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver des librairies qui sonnent bien. Il y a Shrededge aussi, qui est une librairie assez connue, qui fait pas mal de simulations de guitare. En fait, le truc, c'est que t'as souvent des paramètres dans ces librairies, des articulations, ça s'appelle, qui vont te permettre de randomiser un petit peu le son que tu vas obtenir avec ces librairies-là. Ce qui fait que ça rajoute, concrètement, du naturel, un côté
un peu comme les round robin avec, pour les batteries, etc.
Exactement. Ouais, et t'as même des, sur ces librairies-là, sur certaines notes, en fait, ça va être juste des samples de glissés de frettes. Donc, tu peux, toi, t'amuser à caler ces glissés de frettes à certains endroits stratégiques. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail du MIDI et des paramètres MIDI. Tu peux pas juste écrire ta guitare en MIDI en une seule fois et ça y est, ça sonne bien, tu vois. Il y a vraiment tout un travail à faire sur les articulations qui prend un peu de temps, quoi. Des fois, pour un bon guitariste, ça prend plus de temps peut-être que d'apprendre le riff et de l'enregistrer. Mais pour un mec qui a un peu la flemme, comme moi, qui veut faire un riff très compliqué, ça peut marcher.
T'as déjà utilisé DAS, toi, parce que tu fais de la musique aussi, des simulations d'instruments, des trucs comme ça?
Non, parce que moi, je suis vraiment, sur une MPC, donc j'utilise beaucoup de samples, mais très rarement j'en ai fait même des boucles, tu vois, des petites loupes, là, j'ai acheté des loupes à $4 sur des sites un peu chelous, là, et je m'en servais, mais je me disais... faire un truc déjà enregistré et toi l'utiliser, j'avais l'impression d'être un imposteur, tu vois, enfin, je sais pas.
Alors, tu sais, il faut que tu t'enlèves ça de l'idée, parce que le gros phénomène dans ce milieu, c'est Splice. Et que je peux te dire qu'il y a énormément de professionnels et de musiciens qui utilisent Splice. Splice, c'est un service en ligne, en fait, sur lequel il y a 3 milliards de samples, de boucles, de machins, tous les instruments. Et il y a énormément de gens qui utilisent Splice. Donc, te sens pas comme un imposteur.
Non, mais je me dis, en fait, c'est... À quel moment, du coup, tu peux dire c'est le son, il est de moi, tu vois?
En fait, tu t'en fous quelque part à partir du moment où tu fais ce que t'aimes et que c'est des samples qui sont libres de droit, effectivement, quoi. Mais il y a beaucoup, enfin, tu t'hallucinerais le nombre de tracks qui sont disponibles où c'est juste des 4 samples mis bout à bout, quoi.
Ben en fait, là dernièrement, j'avais vu justement, je crois que c'était Gorillaz. Donc
Ah oui, avec le raconte-nous.
En fait, il est dans un studio et il dit c'était Clint Eastwood le morceau, je crois.
Oui. Exactement.
On l'a fait avec ça et c'est un preset de synthé Yamaha à $90.
Mais c'est genre l'ensemble de la mélodie un preset intégré au clavier de chip, tu vois.
C'est génial.
Et c'était très fort de justement voir comment les mecs sont totalement détentes avec ça, alors que moi je me disais vraiment est-ce qu'ils craignent, en fait, de se dire, putain, il y a quelqu'un qui va tomber sur le truc et qui va se rendre compte qu'en fait, j'ai juste appuyé sur play, tu vois, et j'ai rec à ce moment-là.
Tu sais, c'est un peu comme... D'ailleurs, juste pour rappeler, Clint Eastwood, ça ressemble à ça. Hein.
Voilà, ça, c'est le truc du Yamaha, alors je sais plus quel modèle.
Du coup, c'est quoi le son exactement du synthèse?
C'est vraiment... de redeem, là, tu vois, de clavier, là, c'est vraiment un preset de base où t'appuies sur play et il le joue, le clavier.
Trop bien.
Et le mec, ils ont fait un morceau qui a marché de ouf. Et avant ça, il y avait Love in This Club de Usher,
okay,
qui avait été pris par Polo, qui avait été produit par un mec qui s'appelle Polo de Don et qui avait utilisé les Apple Loops de Logic.
Ah oui.
Tu vois.
Ah, trop bien.
Et c'était l'Apple Loop, je sais plus, Eurodance, je sais pas quoi. Et il a pris vraiment toutes les déclinaisons de tous les instruments et Usher a posé dessus et c'est devenu un carton international. Et
c'est Chrissy and the Queens qui avait été taillé aussi à une époque parce qu'elle avait utilisé des sons de base intégrés à Logic. T'as aussi Kavinsky qui utilise des sons, je crois. Même c'était pas dans le truc de Final Cut limite ou un truc comme ça qu'il avait mis sur Nightcall.
Mais en fait c'est ça.
Il y a plein d'exemples en réalité.
Voilà, le truc est là et c'est vrai que je sais pas pourquoi. Parce que moi je viens du hip hop donc j'ai ce côté le digging. Mm-hmm. Tu dois trouver un sample, si possible qui a jamais été trouvé avant. Donc c'est impossible, tu vois, à part sampler des trucs indonésiens, des machins comme ça, mais tu te dis, ah ouais, il faut vraiment qu'on trouve la boucle que personne a pris, machin, etc. Et donc, on est toujours resté dans cette logique-là, alors qu'effectivement, maintenant, on a des banques de sons incroyables et qu'il n'y a pas de, il y a pas de complexe à avoir, tu vois. Mmh. Mais moi, je les ai toujours. Et comme vraiment, je suis sur MPC plus que sur un vrai dos, tu vois, gros séquenceur, etc. Moi, je fais vraiment les trucs, genre j'essaie de faire un truc minimaliste, tu vois, genre allez, si j'ai 6 ou 7 pistes c'est le bout du monde, tu vois. Vraiment jouer rythmique, basse, le petit lead et puis le sample qui tourne et basta, tu vois. Et effectivement j'ai encore ce petit côté m'embête,
c'est vrai, c'est peut-être un truc que j'avais aussi peut-être au début. Mm-hmm. Où souvent dans les VST de synthé, tu sais, t'as des presets avec des sons déjà faits en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment en mode, il faut absolument que je les modifie, que je les fasse.
Ouais.
En fait, maintenant, je m'en fous. Il y a des presets, j'en utilise à balle, quoi, tout le temps. Justement, ça te permet de pas réinventer la route, de partir avec une base qui est déjà bien, quoi.
Enfin,
dans la musique, il n'y a pas de limite, tu vois. C'est cliché de dire ça, tu vois, mais c'est.
Non, mais c'est vrai. C'est un truc sur lequel j'essaie de bosser aussi, tu vois, parce qu'il y a des plugins plutôt bien foutus, d'ailleurs, dans la MPC pour les synthés, notamment. Ouais. Et effectivement, quand je prends un synthé, tu sais, je me retrouve à essayer de alors que le son de base me plaît, tu vois, mais je me dis imagine quelqu'un achète la même machine, télécharge les mêmes plugins.
Après, et alors qu'est-ce qui se passerait?
Oui, après
je reviendrais te voir personnellement.
je sais comment t'as fait ton son, tu vois.
En vrai, c'est pas un problème d'utiliser des presets. Par contre, moi ça m'arrive de valoriser des artistes parce que je sais qu'il y a un travail sur le son qui est inimitable dans le sens où ils vont vraiment travailler eux-mêmes leurs propres presets, etc., voire enregistrer leur propre son de batterie, des choses comme ça, etc. Et ça peut apporter une plus-value artistique.
Il faut que ça serve à quelque chose d'artistique.
Propos,
si c'est juste tu bidoues ton synthé pendant 5 heures et tu fais un truc tout pourri, on s'en fout qu'il ait passé 5 minutes ou 5 heures, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Me dis peut-être que, parce que moi je me considère pas du tout comme un pro de la musique, tu vois, j'en fais vraiment on the side, et je me dis, est-ce que justement les vrais pros, tu sais, les rats de studio et tout, ils disent t'as utilisé un preset.
Ah oui, il y a des trucs que tu peux reconnaître.
Est-ce qu'il y a une diff, vraiment, est-ce qu'on fait un classement de les vrais et les faux, tu vois? Parce que ça, pareil, c'est l'héritage du hip-hop, tu vois. Tout classé de manière binaire, vrai, faux, tout ça, on est complètement con, tu vois, là-dessus. Mais je me dis, est-ce que les vrais musiciens, les gens qui en vivent, tu vois, ils se disent, ah ouais, non, mais.
Il y a un exemple, moi, qui m'a toujours, enfin, j'arrive pas à me positionner, c'est l'exemple Daft Punk. Qui est quand même un exemple illustre, tu vois. Et Daft Punk, qui est un groupe absolument fantastique, mais où sur pas mal de morceaux, il y a un travail de sampling qui est parfois élaboré.
Et d'autres, péter les câbles.
Non, mais parfois, il y a des trucs incroyables. Et parfois, il y en a où c'est un peu la facilité chez Daft Punk, tu vois, sur le sampling.
Et quelque part, t'as ces morceaux aussi qui sont incroyables, donc tu excuses un peu le côté facile, parce que derrière, ils ont fait des morceaux aussi qui étaient très complexes, quoi.
Et puis, on sait qu'il y a de l'hommage derrière, etc., puis c'était toujours un peu modernisé. Mais parfois, le morceau, en fait, de Daft Punk qui connaît un succès fulgurant, repose principalement sur le sample qu'ils ont utilisé et qu'ils ont très peu retravaillé. Il y a des morceaux comme ça.
Ouais, après, il y en a d'autres où les mecs, ils découpent comme des oufs, ils jouent à l'envers.
Bon, on est transparent, il y a eu une petite interruption dans l'émission.
Oui,
on parlait de Daft Punk.
Apéro.
Tu disais que c'était des imposteurs, donc c'est ça?
Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'ils étaient masqués, hein.
Oui, absolument.
La peur de se faire griller et qu'on trouve quelle boucle Apple Loop ils ont utilisé sur l'intégralité de leurs albums. Je comprends. Cette volonté de dissimulation.
C'est vrai. Quelle malhonnêteté de leur part.
Mais oui.
Revenons à ta musique. The Algorithm, Rémi. Parce que on parlait un peu de tubes. Alors il y a eu donc en 2012 Polymorphic Code, et puis arrive quelques années plus tard en 2016 Brute Force, et il y a un morceau aussi qui marche bien sur cet album, qui est Floating Point. C'est un morceau dont t'es fier encore aujourd'hui, que t'as envie qu'on l'écoute, ou il y en aurait plutôt un autre sur l'album que tu préférerais écouter?
On peut l'écouter. Moi, c'est vrai qu'il y a, peut-être d'autres morceaux que je préfère à celui-là.
Ok.
Mais c'est clairement le morceau qui a le plus marché, donc vas-y, je te laisse.
Bon, un petit extrait, on pourra mettre un autre extrait si tu veux,
que tu préfères. Ça me va.
Allez, Floating Point, The Algorithm, sur l'album Brute Force. C'est vénère, hein. C'est bien, on dirait pas comme ça, le Rémi, mais...
ce qui est marrant, c'est que, en fait, vous appelez ça du métal slash électronique. Pour moi, c'était de la musique électronique, en fait.
C'est là, c'est là tout le,
Penses,
c'est ça qui est marrant, parce que... Les riffs saccadés ultra vénères, etc. Moi, j'ai l'impression d'entendre des trucs genre sur les jeux Psygnosis sur Amiga il y a 20 ans, tu vois, ou 30 ans. Même.
Qu'est-ce que t'en penses, Rémi, de tout ça, toi?
En fait, je pense que ce qui donne ce côté métal, c'est plutôt vraiment cette batterie et ces syncopes. Ce côté vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est un batteur de métal qui est bien énervé et qui va envoyer des trucs compliqués, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que toute l'instrumentation derrière, il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup de synthés, donc effectivement, c'est fait pour porter à confusion, en fait.
Ouais, ce qui est marrant, c'est que quand moi j'entendais des sons comme ça, et généralement, effectivement, ça accompagnait le jeu vidéo, je classais pas ça comme du métal, tu vois. Pour moi, c'était de la musique électronique.
C'est marrant parce qu'il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que si tu prends, je pense, il y a un exemple qui me vient là, c'est dans la BO de The Witcher 3. Il y a un morceau.
Donc il y a un jeu vidéo, c'est
grand jeu.
Il y a l'OST, elle est incroyable, et il y a une track. Si tu remplaces les instruments par des guitares et de la batterie, c'est du métal.
C'est du métal,
parce que c'est des riffs vraiment typiques qui sont utilisés dans les groupes de death metal en mineur harmonique. Mm-hmm. Tu vois, c'est vraiment des codes qui sont vraiment propres au death metal, quoi. Et je trouve ça super intéressant qu'au final notre perception des genres musicaux, elle dépend de quoi au final? Est-ce qu'elle dépend des instruments? Est-ce que
la
dépend
façon
des...
dont c'est joué,
la façon dont c'est joué, l'intention? C'est super intéressant.
C'est super marrant.
Mais parce que c'est vrai que moi je suis assez d'accord. Si tu prends l'instrumentation et l'orchestration, on est dans la musique électronique globalement. Mais tu trouves il y a une énergie, des codes mélodiques, etc. qui sont quand même et des rythmes qui sont propres au métal, effectivement. Et donc c'est ce mélange là. Mais si on devait résumer, c'est vrai que c'est plus de la musique électronique qu'autre chose. Ça, je suis assez d'accord. Mais qu'il y a une vraie culture métal qui ressent.
En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu essayes de l'analyser, là le truc, le côté métal est évident, tu vois. Mais je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai écouté plein de trucs comme ça sans me rendre compte. Parce que c'était, ça accompagnait des expériences et tout. Et en fait, je retrouve certains codes, tu vois. Je me dis, ah, ok. En fait, j'écoutais du métal, je savais pas. Tu vois, donc c'est cool.
Il y a un truc, par exemple, auquel on t'a souvent associé et qui, là, en l'occurrence, est très métal, c'est le djent. Est-ce que tu veux d'ailleurs rappeler rapidement ce que c'est? Tu veux que je le fasse?
Alors, le djent, pour résumer, c'est un sous-genre du métal progressif qui va être très basé sur, justement, ces syncopes de batterie. Donc ces rythmes très saccadés, ta 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 ta, c'est typiquement du djent, et c'est un genre qui s'est développé notamment par l'intermédiaire du groupe Meshuggah,
bien sûr,
qui est un groupe culte des années 2000. Et c'est vrai que c'est une scène où on m'y a rattaché un peu de facto assez rapidement. Mais moi, quand j'ai commencé à faire ma musique, je connaissais pas le djent.
Et en fait, ce qu'on retrouve vraiment, c'est que l'une des particularités de Meshuggah, donc qui est un peu, même si en fait ils se revendiquaient pas du tout du djent. D'ailleurs, il y a peu de groupes. Enfin, s'il y a des groupes qui se revendiquent du djent, mais pas eux en tout cas, même s'ils sont considérés comme les pionniers du truc, c'est qu'ils utilisaient des 7 cordes, voire des 8 cordes. Mmh. Et donc en fait, ils faisaient des riffs sur des cordes extrêmement graves. Et en gros, au lieu de faire des power cordes comme on le faisait classique dans le rock, c'était sur une seule corde. Et donc ça donnait un truc très rythmique, ou presque, il y a encore une mélodie, mais ce qui est marquant avant tout, c'est la façon d'attaquer la corde et le côté rythmique. Et qu'on retrouve un peu, c'est vrai, dans ta musique.
Il y a presque ce côté final industriel, où c'est vraiment plus un bruit, quelque part, que vraiment une note, comme tu l'expliquais, quoi. Et ce côté-là, oui, moi je l'ai beaucoup utilisé, pas forcément de la même manière que Meshuggah, où c'est vraiment là quelque chose de très sombre, très... très industriel comme quand je viens de le dire, quoi. Là, c'est moi, je l'utilise plus dans une dimension de C'est un peu comme si c'était un programme informatique qui génère des données qui sont super compliquées. Du coup, ce côté un peu mathématique, tu vois, avec les rythmes qui représentent un peu des nombres, ça m'a tout de suite parlé. Enfin, je trouve ça super intéressant, quoi.
Il y a une super chaîne YouTube, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est un truc genre mathémusique ou un truc dans le genre, et qui a sorti l'un de ses derniers épisodes est consacré au rythme chez Meshuga. Justement. Okay. Et en fait, c'est un mec qui est passionné par les maths et par la musique et qui essaie toujours de les lier dans toutes ses vidéos. C'est une grande qualité ce qu'il fait. Et il le fait justement avec l'exemple de Meshuga et on voit qu'il y a un vrai travail au niveau du rythme complexe.
Ça va être super intéressant. Parce que surtout dans Meshuga aussi, le truc, c'est qu'il y a des riffs qui sont, entre guillemets, décalés avec le rythme de la batterie. Ce qui fait que le guitariste va jouer un riff, il va le répéter d'une certaine façon parce que le batteur, il va jouer sa loupe sur une signature différente. Donc en fait, ils vont mettre, je sais pas, genre 50 secondes avant que tous les deux retournent sur la même loop, sur le début de la même loop, quoi. Ouais. C'est ouf, quoi. Ça va vraiment tellement loin dans les mathématiques, quoi, comme tu me disais.
T'as un morceau de Meshuga que t'apprécies? Toi-même, tu es amateur Meshuga ou pas?
J'adore Meshuga, mais c'est vrai que j'ai découvert, au final, après coup, quoi. J'ai découvert parce que les gens m'associaient justement à ce style musical. Alors un morceau en particulier, là tu me poses une colle.
Je sais pas, après on peut regarder
sa spécialité. Poser des colles aux invités.
Moi j'avoue, je connais pas extrêmement bien.
Je crois qu'il y a un morceau, je suis pas sûr d'avoir le titre correctement, mais c'est Strings at Random, Pulled Strings at Random, un truc comme
ça. Ok, attends, je vais voir si j'arrive à trouver avec String. Strauss Pulled at Random.
Ah voilà, c'est ça.
Et bah écoute,
j'avais pas le Strauss.
Petit extrait.
T'écoutes ça en voiture, t'as envie d'imiter tout le monde, quoi. Faut vraiment se préparer aménager des moments.
Écoute, il faut adapter l'écoute, effectivement.
Il y a vraiment, je trouve, ce côté hypnotique, en fait. Tu vois, t'as l'impression que ça flotte un peu tout le temps. C'est très agressif, mais ça flotte aussi quelque part.
Moi, je trouve ça assez fascinant. Parce que c'était décrié le djent à une époque. Dans le sens où il y a plein de gens qui étaient critiques envers le djent. Donc, Meshuga qui inspire des gens et qui ensuite crée une espèce de vague musicale, qu'on appelle le djent.
Son genre.
Avec des gens comme Périphéry, Micha Mansour, des trucs comme ça, quoi. Et des gens d'ailleurs avec qui t'as joué aussi, des Monuments. Est-ce qu'ils s'inscrivent dans le djent?
Oui, complètement. Ouais. C'est vrai que t'as souvent ce truc de certains groupes qui osent pas vraiment dire qu'ils font partie de ce mouvement-là, parce que ça, effectivement, il y a eu toute cette vague de gens qui trouvaient que jouer du zéro sur ta corde à vide pendant toute la durée du morceau, c'était un peu trop facile, tu vois. Mais Monuments, effectivement, c'est un groupe incroyable. Moi, un de mes groupes préférés de cette mouvance, je pense que c'est Viljarta.
Ok, je connais pas.
Viljarta, c'est un groupe. Alors, je vais pas dire de conneries, mais scandinave, je sais pas de quel pays exactement, mais absolument incroyable. Ils ont des riffs d'une autre planète avec des harmoniques de guitare. Tu sais pas comment ils font, tu sais pas vraiment comment ils arrivent à sortir ce type de son en fait avec leur guitare. Et du coup, ils rajoutent ça vraiment au côté rythmique super compliqué. Mmh. Et de les voir en live, c'est une expérience extraordinaire.
Parce que ça, c'est vrai que c'est un des bandes dont on n'a pas parlé, dont on pourrait parler peut-être dans la deuxième partie, mais c'est que en signant avec le label Epic Records, un truc comme ça.
Basic Records, pardon.
D'ailleurs, c'est autre chose, Epic. Mais...
J'ai signé, la première fois que j'ai signé avec ce label, c'est une anecdote assez rigolote.
Vas-y.
Donc en fait, un de mes premiers concerts, c'était au festival Euroblast en Allemagne. C'était vraiment la première fois que je jouais dans un vrai festival. Et à cette époque-là, donc je jouais tout seul, j'avais pas de batteur qui m'accompagnait. Ouais. Et j'étais très stressé. J'étais vraiment très anxieux parce que c'était dans un festival avec beaucoup de groupes aussi que j'appréciais et tout. Du coup, j'étais venu avec des potes pour qu'ils m'aident un peu à me supporter et tout. Et du coup, je fais mon concert. Ça se passe super bien. La pression retombe. Et là, je commence à boire un peu avec les potes, je commence à manger des sandwichs, je commence à faire ce genre de des trucs pas trop légaux, quoi. J'espère que ma mère n'écoute pas ce Et du coup, il y a le mec du label qui était déjà intéressé, avec qui j'avais déjà un petit peu parlé par mail et tout, qui me fait vas-y, j'ai le contrat. On se cale en backstage et je te le montre et tout. Le problème, c'est que j'étais déchiré, quoi. J'étais vraiment...
T'as signé?
On est allé en backstage il a commencé à me poser des questions et je savais pas trop. En plus, mon anglais à l'époque était pas ouf non plus. Les questions, je faisais yes, mais je savais pas de quoi il parlait vraiment, quoi. Et du coup, j'ai signé.
Non, j'ai signé. Catastrophe. Alors, faut pas faire ça.
Ne faites pas ça à la maison. Et du coup, je l'ai relu. Évidemment, je l'ai relu un peu plus tard à tête reposée, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce qu'il y avait rien vraiment de compromettant ou ouais. Voilà, le contrat, il me mettait aussi beaucoup à mon avantage.
Okay. Ouais, il décline. Donc, tombé sur des gens sérieux.
C'est cool, mais ne faites absolument pas ça. C'était très dangereux. Je jouais littéralement ma carrière sur ça, quoi. Donc bon, voilà. Ce que tu disais.
Oui, très bonne anecdote, j'aime beaucoup. C'est que on disait il y a l'influence musicalement du métal, même si ça reste de la musique électronique, on pourrait dire. Par contre, très clairement, ce que tu partages, comment t'es booké, les tournées que tu fais, où tu joues, là, c'est dans la culture métal. Et ce label, justement, c'est aussi le label de Monuments, ou j'ai une bêtise non. En fait, t'as beaucoup tourné avec Monuments.
Oui, peut-être au début. En fait, donc au début, je jouais tout seul, vraiment, avec j'avais un contrôleur MIDI, la PC40. Je crois que c'est un peu l'ancêtre de l'Ableton Push.
Ouais. Qui est encore utilisé parce qu'ils font pas exactement la même chose, mais oui,
okay.
Oui,
en tout, ouais. Je savais pas que c'était encore en vente. Du coup, j'avais vraiment ça et très rapidement, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure de musiciens aussi pour rendre le projet un peu plus intéressant en live. Et justement, j'ai rencontré le batteur de ce groupe, Monuments, qui est venu rejoindre un peu le.
Donc là, vraiment du pur métal.
Oui, lui, il venait clairement du métal progressif, du djent, donc batteur vraiment qui envoie de la double à l'infini. Excellent, ce batteur, je vous recommande de regarder des vidéos de lui. Bah, une des vidéos qui, quand on a commencé à travailler ensemble, une des premières raisons pour laquelle j'ai voulu en fait travailler avec lui, c'est qu'il a fait une cover en fait d'un de mes morceaux.
D'accord.
Et au début, quand il m'a dit qu'il voulait faire ça, je t'avoue que j'étais un peu en mode, il va pas y arriver, c'est pas possible parce que mes parties batterie, elles sont vraiment pas faites pour être joué, quoi.
Par un être humain, en tout cas, quoi.
C'est ça. Et deux mois plus tard, il m'envoie cette vidéo-là et il joue la partie batterie, genre au poil de cul, vraiment exactement tous les petits détails et tout, toute la double. Et j'étais en mode, mais c'est un truc de fou, quoi. Et c'est vrai qu'en voyant la vidéo, j'ai commencé à me dire, ah ouais, sur scène, d'avoir vraiment la batterie et le mec au synthé à côté, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant, quoi.
Et d'ailleurs, ça m'évoque un truc parce que on disait la recette métal, musique électronique. C'est pas un truc courant, mais il y a quelques stars quand même qui font ça. On peut penser évidemment à du Carpenter Brut, à du Perturbator, dont on peut d'ailleurs s'écouter quelques extraits. Est-ce que c'est des artistes d'une part que tu apprécies, qui sont même pourquoi pas des références pour
toi? J'ai fait une tournée avec Perturbator en 2019.
Okay.
J'adore sa musique, ça a toujours été une grosse influence aussi pour ce que je fais.
Okay.
Et Carpenter Brut, je crois que j'ai fait une date aussi avec lui à Nîmes, un truc comme ça.
Ok.
Mais c'est pas du, enfin, Carpenter Brut, c'est Synthwave plus que.
Il y a une grosse inspiration métal de ouf.
Ah ouais.
Après, c'est
plus
effectivement dans le spectre électronique Synthwave que ça ne l'est dans le métal, quoi, parce qu'il y a pas, tous ces codes que je vais utiliser avec
ça,
les guitares.
Ça, c'est vrai. Mais par contre, je l'ai vu en live, Carpenter Brut, et il avait un gratteux sur.
Oui, c'est vrai.
En live avec lui, c'est tu vois, avec un gratteux de métal. Donc il y a quand même ce truc très assumé et même dans il y a une culture. Mais tout comme d'ailleurs cette culture métal, on le retrouve chez un Skrillex par exemple, qui fait pas du tout du métal en réalité. Et puis il y a des morceaux qui sont complètement EDM et qui n'ont plus aucun rapport, mais il fait transpirer quand même à travers sa musique aussi cette culture métal derrière fondamentalement. Et il y a plein d'artistes qui sont capables de faire ça, notamment dans la musique. Justice, c'est un truc qu'ils ont toujours revendiqué.
Ouais. Ah ouais?
Ah bien sûr. Et tu vois comment ça tape chez Justice, il y a un truc métal dans tout ça, quoi.
Ouais, c'est vrai, je m'étais jamais posé la question. Moi, je regarde ce qui est écrit sur l'étiquette et je dis ok, c'est ça. C'est très réducteur.
Et par rapport à ces mecs, c'est Perturbator. Il y a un morceau d'ailleurs Perturbator que t'aimes bien?
Encore une colle.
Encore une colle. Ou un album, hein. On peut piocher dedans. Ou, tu sais quoi, on va regarder un de ces tubes.
C'est quoi, je te fais confiance.
Ouais.
C'est toi qui as l'ordi, c'est toi qui as.
En réalité, je vais prendre celui qui a le plus d'écoute sur Spotify en ce moment. Il s'appelle Future Club. Perturbator, ça nous aura
un grand classique.
C'est très relax.
Oui, c'est vrai sur ce morceau-là, ouais.
Il y a des morceaux beaucoup plus vénères que celui-là.
Non, là, c'est beaucoup trop tranquille.
Je crois qu'il y a un morceau qui s'appelle Neo Tokyo.
Ok.
Qui est un de mes préférés.
Eh ben, vas-y.
Neo Tokyo. La ref. J'ai la ref.
Ce morceau en live, il est incroyable.
Ouais.
Avec, parce qu'ils ont tout un parterre de light assez compliqué et tout.
Okay.
Ça rend super bien sur scène.
Neo Tokyo de Perturbator.
Ouais, c'est relax.
Un peu rapide, mais relax quand même.
Relax, ouais. On fait vacances à la plage.
Ouais,
ouais, je sais pas si c'est si relax, hein.
En fait, la batterie, elle reste.
C'est assez droit, ça, c'est vrai.
Tu vois, c'est.
Ça, c'est vraiment propre.
Et c'est un problème simple.
Ouais. C'est pas justement les trucs syncopés qu'on a entendus.
Ce côté boom check.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un côté quand même, c'est saturé, c'est. Comment justement on se. Quand on fait une musique qu'on pourrait apparenter à cette scène, on arrive à se distinguer. Est-ce que parfois, même d'une certaine manière, on se retrouve un peu en. Tu vois, où se dire, il faut que je sois booké moi aussi, et tu vois, faut pas penser qu'à Perturbator, y a The Algorithm aussi. Enfin, est-ce qu'il y a un peu cette réflexion, on se dit, par rapport aux autres gens qui sont assimilés à la scène à laquelle on participe?
Oui, je pense que c'est toujours un petit peu difficile de pas se comparer aux autres, surtout avec les réseaux sociaux, tout ça. Tu as toujours tendance à regarder dans la musique en général, tu regardes le nombre de lectures, le nombre de streams, etc. Donc tu te compares beaucoup. Après, je trouve que quand même fondamentalement, tu le disais justement, les styles sont quand même assez séparés.
Ouais.
Ce qui fait que moi, ma plus-value entre guillemets, ce que j'apporte est quand même assez différent de ce que va apporter un Perturbator.
Ouais. T'as ton espace en fait pour évoluer.
Exactement.
Mais est-ce que tu l'as sciemment parfois choisi en fonction aussi de ce qui était déjà proposé, ou c'est juste la musique que tu faisais depuis longtemps et puis voilà?
Non, c'est assumé. C'est vrai que j'aurais pu, dans une certaine manière, évoluer dans une direction peut-être un peu plus mainstream,
ouais,
et amener le projet vers quelque chose de plus, j'allais dire écoutable, mais c'est peut-être.
T'es dur avec toi-même.
Je suis un peu dur avec moi-même.
Ouais, plus facile facilement,
d'accès.
Ouais,
c'est plus facile d'accès. Ouais. Mais j'ai fait le choix de pas le faire parce que moi, ça m'éclatait de faire cette musique un peu complexe. Et je trouve que voilà, ça manque un peu des fois dans la musique. D'avoir des groupes, des mecs. Alors tout le monde n'a pas forcément voilà la chance de le faire. Il y a des gens forcément obligés au bout d'un moment de manger, de payer les factures, etc. Donc je comprends que certains groupes prennent des directions qui sont peut-être plus faciles d'accès pour pouvoir générer un peu plus de revenus, etc. Mais j'ai décidé de pas le faire parce que ce style-là me correspond et je voulais avant tout être honnête et voilà faire un truc qui est authentique. Après, c'est pas pour ça que j'ai pas de succès non plus. Hein. J'ai quand même du succès avec mes albums, avec mes OST, avec tout ce que je fais à côté. Donc, c'est vrai que je pourrais être à un niveau plus mainstream, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Je sais pas.
En tout cas, parfois, tu prends un petit espace, un peu une petite respiration, en faisant effectivement autre chose que tes albums solo, The Algorithm. Alors les OST, ça, on va en parler dans 5 minutes. Mais aussi, t'as un autre projet qui est Boucle Infinie. Et où là, je sais pas si c'était la réflexion, mais là, il y a un côté plus accessible, franchement, je trouve, dans cette musique. On peut d'ailleurs s'écouter un extrait. Là, moi, j'aime bien le morceau Solitude, par exemple.
Ouais, trouvé celui-là.
Qui est sur Summit. Après, il y a sur l'album précédent, mais le problème, c'est que je peux pas prononcer le titre du morceau, parce que c'est en japonais. Je sais pas c'est lequel. Je sais pas comment je dis Das. Tu sais, t'es capable
je sais pas, moi.
Ça peut être le premier morceau du premier album.
Ok, et
je sais pas le prononcer non plus, mais.
Eh ben parfait. Donc là, on est sur le projet Boucle Infinie, c'est toujours toi, mais pas sous le nom The Algorithm.
C'est ça.
Album sorti en 2017.
N'hésite pas à scroller aussi un petit peu dans la musique.
J'aime bien l'ambiance là. C'est une autre ambiance. Hein. C'est très jeu vidéo là pour le coup aussi.
De ouf. Puis ouais, synthwave complètement assumé là.
Ouais.
Et un petit extrait quand même sur ça, c'est sur l'album suivant. Donc ça c'est l'album que je suis incapable de prononcer. C'est en japonais donc 2017.
Mais comment s'appelle cet album?
Ah. Comment tu le prononces? Ouais, comment tu dis? Comment tu fais?
On va couper au montage.
Et puis ouais, 5 ans plus tard, en 2022, c'est relativement récent, l'album Summit, plus facile à dire cette fois. Et t'as le morceau Solitude que je trouve cool. On s'écoute un extrait.
Ouais,
Charlet me rappelle le Street of Rage.
Bon, on est dans un autre délire là.
Hein. Ouais, ouais,
c'est cool,
ouais,
hein.
Mais c'est cool aussi.
J'aime bien
ouais,
Boucle Infinie.
Ouais. Franchement, chouette, chouette. Ah,
c'est ta respiration, un peu. Parfois, quand on a marre du gros son.
Un petit peu, ouais. J'avais un peu envie d'aller explorer d'autres choses. C'est vrai que le problème entre guillemets quand t'as un projet comme The Algorithm, c'est que je me suis fait un framework, je me suis fait un code qui est tellement précis, qui est tellement particulier, que si je veux m'en écarter, bah ça devient un peu difficile. Donc je préfère tout simplement créer un autre projet, donc
changer d'entité en fait, et
ouais, ouais. Et explorer des choses que j'aurais pas forcément exploré avec mon projet principal.
Mais du coup, est-ce que les gens qui écoutent Boucle Infinie savent que t'es aussi derrière The Algorithm ou
et inversement
inversement
en
ouais.
Fait, ça dépend. Ça dépend vraiment si les gens s'intéressent à tous mes projets ou pas. Il peut y avoir des, il y a sûrement des personnes qui n'écoutent qu'un seul projet.
Sûrement, parce que la façon dont c'est classé dans Spotify, est-ce qu'il y a un lien direct sur ta page
Après, j'ai fait
artiste.
J'ai fait un remix de Boucle Infinie par The Algorithm. Et il y a okay. Un morceau de The Algorithm qui s'appelle Boucle Infinie.
Ah, il est malin, il est malin.
C'est vraiment bien le bordel, mais ça fonctionne à peu près.
Ouais, c'est intéressant, ouais, parce que généralement, quand les artistes font d'autres projets comme ça, c'est parce que il y a un apport extérieur, il y a des musiciens qui étaient pas là avant, etc. Toi, en fait, t'es tout seul et de toi-même, t'as dit, allez hop. Je vais faire un truc, j'ai pas envie de bousiller mon algorithme, justement.
En fait, c'est ça.
Bien vu. C'est littéralement ça. Tu dis, oh là là, si je me mets à écouter ça, je vais flinguer mon algorithme, donc je vais me créer un nouveau compte Spotify pour le faire. Et là, on a l'autre côté artiste, en fait. Je trouve ça intéressant comme démarche, ouais. C'est marrant.
La BO, c'est un peu la même idée de pouvoir proposer une musique différente, une respiration, ou alors c'est une démarche radicalement opposée, parce que, typiquement, un truc qui m'interroge quand on parle de BO, c'est, il y a un cahier des charges, j'imagine, quand on fait appel à toi pour faire une BO. Des contraintes, des allers-retours, on dit non, mais ça j'aimerais plus. C'est autre chose qu'un projet solo. Est-ce que c'est ce que tu recherchais aussi, ou pour toi c'est le prolongement d'un album solo, ou alors justement tu voulais de la contrainte, un cahier des charges?
Alors je pense qu'il y a vraiment deux côtés. Il y a un côté où il y a un moment où je faisais des OST un petit peu, parce que j'avais pas le choix pour gagner de l'argent. donc j'en ai pas fait énormément, mais il y a eu certains trucs que j'ai fait aussi en ghostwriting. Mm-hmm. Okay. Donc là effectivement,
c'est-à-dire en ghostwriting, c'est pas ton nom qui apparaissait sur l'album, mais c'est toi qui avais composé la musique.
Exactement. Donc il y a vraiment cette démarche aussi de faire des OST parce que ça rapporte un peu de fric. C'est vrai que j'ai essayé un peu de m'écarter de ça, donc comme on le disait, en ayant une activité à côté. Et par contre, il y a certaines OST, quand je les trouve vraiment très intéressantes et que je trouve que le jeu apporte vraiment quelque chose qui me parle, quoi. Typiquement, ouais, j'y vais. Là, on va prendre l'exemple, par exemple, de The Last Spell, qui est le dernier jeu sur lequel j'ai contribué. Et ils sont venus directement vers moi par mail en mode on a un jeu tactical RPG influencé par la dark fantasy et tout. On veut du metal synthwave qui envoie bien et qui soit super intense, quoi. Donc quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je fais, donc let's go, quoi, ça me correspond super bien.
Et tu sais s'ils avaient proposé à différentes personnes, ils avaient fait un peu une prospection?
Si, il me semble qu'ils avaient proposé à plusieurs personnes. Après, je sais pas exactement les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé un peu derrière les coulisses, ça je sais pas vraiment, mais donc ils m'avaient demandé, moi, de faire une démo. Okay. Je crois que la démo après a été utilisée sur le trailer de l'Early Access, quelque chose comme ça. Okay. Et quand ils ont écouté la démo, ils ont tout de suite vu que ça collait quand même assez bien.
Okay.
Donc à partir de là, en fait, on a vraiment officialisé le truc, ouais. En mode « Ok, c'est parti, on va te filer un cahier des charges avec le nombre de tracks dont on a besoin, le type d'ambiance dont on a besoin, en fonction des boucles de gameplay aussi, il va falloir différents types de musique. »
La musique, souvent dans les jeux vidéo, elle est adaptative. Mm-hmm. Et donc, elle se marie à l'action qui se passe à l'écran ou à une séquence en particulier. Est-ce que toi, t'as bossé comme ça avec des trucs qui se rajoutent ou t'as vraiment fait des tracks et c'est le même track du début à la fin du...
Non, il n'y a pas du tout ce côté adaptatif.
Ouais.
Ça m'intéresserait de travailler sur ça, effectivement, un jour. Je trouve que il y a vraiment des trucs exceptionnels qui sont faits sur ça.
J'aimerais bien discuter un jour de la musique, il me semble qu'on dit procédurale dans le cadre du jeu.
Non, procédurale, ça veut dire générée par aléatoirement. Alors là, c'est vraiment les gens, ils prévoient le morceau et puis, en fonction de l'action, ils vont rajouter peut-être des instruments qui apparaissent, qui disparaissent. Tu vois, le truc le plus emblématique de ça, c'était dans Super Mario World sur Super NES.
Ouais.
Dès que tu montais sur Yoshi, t'avais des genres de congas derrière que t'as pas dès que tu sautes du dinosaure, tu vois.
Pardon, vas-y.
En exemple plus récent, il y a Red Dead Redemption 2.
Ouais, bien sûr.
Ils sont allés super loin avec ça. Je crois qu'ils ont enregistré des heures et des heures de tout petites boucles d'un seul instrument, genre une seule note. Et en fonction des actions que tu vas effectuer dans le jeu, effectivement, t'auras une note.
Ouais.
Et je crois que tout a été enregistré dans une même gamme. Ouais. Ce qui fait que peu importe en fait le sample qui va
ça sera toujours
ça va coller en fait à la gamme la gamme du truc.
J'aimerais bien un jour faudra qu'on l'invite, et en plus pourquoi pas on peut demander à notre ami Mister MV de nous connecter. Ouais, mais il y a Olivier de Rivière qui fait de la musique de jeux vidéo
incroyable.
Et qui bosse beaucoup sur ces trucs adaptatifs etc.
Ouais,
et je pense d'un point de vue technique ça peut être passionnant d'en discuter.
Ouais. Mais du coup, la question que j'avais pour toi, c'était est-ce que c'est toi qui démarches les studios ou est-ce que c'est eux qui viennent te chercher ? Donc là, pour The Last Spell, c'est eux qui sont venus. Mais est-ce que toi, tu vois passer des projets, tu dis ah, j'aime bien ce studio, j'aime bien ce qu'ils ont fait avant.
Tu te proposes toi, proposer soi-même, par exemple ?
Non, c'est jamais arrivé. Ça peut arriver un jour, pourquoi pas. Comme tu dis, de voir passer un jeu, de me dire ça peut coller au truc, quoi. Mais c'est vrai que en général. Les développeurs soit connaissent déjà mon projet ou alors ils se le font recommander par une personne qui connaît déjà et ils vont avoir besoin ils ont un cahier des charges très spécifique là. Dans ce cas-ci c'était vraiment métal progressif synthwave, c'est quand même assez spécifique, tu vois. Donc forcément ils s'intéressent à mon projet et derrière ils peuvent me proposer ce genre de contrat, quoi.
Faut qu'on s'écoute des extraits un peu de la BO de The Last Spell. D'ailleurs on en profite pour remercier nos amis de Kid Katana avec qui tu as travaillé pour la BO et grâce à qui on a pu faire cette émission d'ailleurs.
Exactement.
Coucou les copains, allez checker ce que fait Kid Katana, très bon label de musique de jeux vidéo. Et sur The Last Spell, il y a un morceau en particulier que tu kiffes. Moi j'avais mis de côté une Memoriam, mais ça peut être autre chose.
Ouais, très bien, ça
te paraît bien.
C'est parfait.
Allez. C'est plus adapté, tu vois, à de l'image, à du jeu, etc.
C'est marrant parce que c'est des morceaux assez courts, en fait, quand je vois les durées. Alors là, c'est 1,44.
Parce que c'est des boucles.
Ouais.
Au final, c'est des morceaux qui vont être bouclés dans le jeu. Donc ça, c'était un petit peu le challenge de trouver comment rendre le morceau toujours intéressant, même après la centième écoute, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas, mais...
C'est pas un exercice qui est très facile, forcément, mais voilà, j'ai essayé un petit peu de...
Et sur la BO, t'es crédité sous ton nom, prénom
C'est vrai que sur Spotify, il y a les deux. Il y a à la fois Rémi Gallego et The Algorithm.
Alors c'est justement un truc sur lequel on a bossé avec Kid Katana pour refaire passer le projet sous le nom The Algorithm. Je pense que il y a une époque où je voulais un peu séparer les deux, donc ce côté mes OST et puis mon projet principal. Et après en avoir discuté, avoir un petit peu réfléchi, je trouve qu'en final ça a du sens si je le mets sur mon projet principal, sur le même catalogue. Ça permet aux gens aussi de le découvrir plus facilement, quoi.
Ouais, carrément.
Mais du coup là t'as joué une track. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que dans le jeu t'as vraiment deux boucles de gameplay principales.
Ouais.
T'as la partie pendant le jour, c'est là où tu vas construire un petit peu.
Ok, donc dans le jeu là, c'est le jour et parfois c'est la nuit.
Voilà, parfois c'est la nuit, c'est là où tu vas plus combattre en fait les hordes d'ennemis avec l'équipement que t'as construit pendant le jour justement.
Ok.
Et du coup pendant la nuit, c'est des tracks qui vont être beaucoup plus métal.
Ok.
Donc tu peux écouter sur le ST, en fait t'as vraiment cette dualité entre les morceaux de jour qui sont très atmosphériques et les morceaux de nuit qui sont pour le coup
plus vénère
quoi. Et des grosses guitares.
Mais ce que j'aimais bien avec sur In Memoriam, c'est que d'une part ça tranche quand même avec ce que tu proposes avec The Algorithm ou même avec Boucle Infinie. Et puis par touche, hein, je sais que ça apparaît dans d'autres tracks de manière encore plus visible, plus audible, mais il y a le côté un peu plus symphonique. Et on voit en fait que tu t'adaptes au code un peu plus cinématographique aussi, un peu plus du jeu vidéo justement aussi, où là tu dois avoir une orchestration et des instruments qui rappellent aussi les trucs épiques, mettre des cuivres, des machins comme ça. T'as senti cette nécessité un peu
Complètement. Après, c'était aussi quelque chose qui était expliqué de façon très claire par le cahier des charges.
Ah, ils souhaitaient ça.
Je me rappelle un des premiers morceaux que j'avais créé pour eux. Un des seuls retours que j'ai eu, c'était vraiment qu'il y avait peut-être un peu trop de synthé, quoi. qu'il y avait ce côté cyberpunk, en fait, il était peut-être un peu trop présent. Du coup, pour un jeu qui est un peu plus dark fantasy, avec voilà, ce côté médiéval presque, ça détonnait un petit peu. Et vraiment, ouais, au fil des morceaux, j'ai appris un petit peu à rajouter, ou à, en tout cas à remplacer des synthés par des éléments plus symphoniques. Donc il y a même des éléments médiévaux, il y a du luth par exemple dans certains morceaux. Okay. Après c'est beaucoup voilà de violoncelle, ouais. Comme tu dis, des éléments plus symphoniques, plus proches du son à l'image tel qu'on le connaît traditionnellement. Ouais. Quoi.
Et sur la BO donc de The Last Spell, puisque c'est la plus récente sur laquelle t'as taffé, est-ce que donc tu t'as collé au cahier des charges, où il y a des choses où toi t'as pu être force de proposition pour les devs qui se sont dit « Ah ouais, finalement, c'est pas bête comme idée », ou tu vois. Est-ce qu'il y a eu un échange comme ça, un peu bilatéral, où t'étais vraiment ouvrier à coller au cahier des charges qu'on t'a imposé?
Je sais pas trop. En fait, il y avait pas trop, finalement, d'échanges. Je pense qu'ils avaient pas le temps. Ouais. Vraiment, en général.
Donc, ils t'ont fait confiance, ils ont dit, OK, voilà l'expression de besoin et.
C'est ça, les développeurs, en général, ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper du compositeur, tu vois, on est un peu à la dernière roue du carrosse, quoi. C'est un peu, ils ont mille autres problèmes à gérer, tu vois, donc c'était.
Mais toi,
il n'y a pas trop de communication, mais.
Quand tu t'as fait la musique, t'avais, donc, j'imagine, des éléments visuels pour essayer d'être dans le ton du truc.
Voir un truc jouable, ou c'est seulement des images, des artworks, des trucs comme
Alors,
ça?
Au tout début, ce que j'ai eu, c'était des artworks, donc des sprites, vraiment, littéralement. Je crois qu'il y avait vraiment des visions d'artistes, un petit peu, mais c'était vraiment une ébauche, quoi. Et je crois qu'il y avait une vidéo, mais très courte, et avec une partie du gameplay, il n'y avait vraiment pas tout, et une partie du lore. D'accord. Donc c'était vraiment des infos...
Ce qu'on appelle le lore, c'est l'univers.
C'est l'univers du jeu.
Des informations assez disparates, et assez avec beaucoup de trous, quoi. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, notamment sur le gameplay en lui-même, le rythme du jeu aussi, c'est...
Parce qu'on souvent ça peut être problématique, du coup.
Mais on a souvent l'impression, quand on joue à un jeu... On se dit, bon, mais c'est facile, en fait. Le mec, il joue au jeu et il compose la musique en fonction de ce qu'il voit, quoi.
Ouais.
Alors que dans 95% des cas, si ce n'est 100%, le compositeur, il va taffer sur la bande-son vraiment à un stade de développement du jeu où il n'y a rien, en fait, où il n'y a rien de jouable.
Il n'y a pas un risque, justement, que le jeu change de direction en cours de dev et toi, t'es là, tu fais, allez, hop, on dégage
tout. À la poubelle.
Ouais. Horrible.
Mais je le revends en autre jeu, j'en sais rien. Ouais, parce que ça peut arriver. Ouais.
Là, il y a combien de tracks?
On est sur, il y en a pas mal, hein, 27.
27, d'accord.
Bon, ouais. Après, ils avaient quand même, le concept, ils l'avaient par écrit, si tu veux. Donc, j'avais déjà un petit peu compris la direction qu'ils allaient prendre. Donc, si tu veux, il n'y avait pas trop de risques dans le sens où ça allait pas passer d'un tactical RPG à un FPS, chose, quoi.
Ouais.
Tu vois.
Ouais. Mais du coup, tu le disais, il n'y a pas eu tant d'aller-retour avec les devs, quoi.
Ouais, pas tellement.
Donc, il vaut mieux bien comprendre la demande au départ, parce que
c'est
après.
Ça. Après, j'aime à croire que je faisais un très bon travail, et du coup, ils n'avaient rien à dire. Ou peut-être qu'ils avaient juste la flemme et pas le temps. Je sais pas. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, et je pense que vraiment, s'il y avait quelque chose qui allait pas, on a eu quelques échanges quelques fois, quoi.
Ouais. Et en termes de charge de travail, par rapport à ce que tu fais, toi, quand tu composes pour toi, est-ce que c'est plus contraignant? Est-ce que ça te prend plus de temps? Est-ce que tu vois? Est-ce que comment tu juges le fait de bosser pour des OST?
Je pense que dans la durée, ça a forcément duré plus longtemps, parce que le jeu est sorti en early access il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, ou 3 ans peut-être, même 3 ans.
Okay. Ah ouais.
Donc et il est sorti en final release, je crois, le mois dernier. Donc ça a vraiment mis 3 ans pour composer l'ensemble des musiques, parce qu'il y avait toujours des aspects qu'il rajoutait un peu plus tard dans le développement, qu'il savait pas forcément prévu, il fallait une musique en plus. Donc il y a vraiment ce côté, c'est un marathon, quoi. Faut vraiment...
C'est-à-dire que en fait, dès le départ, ils t'ont pas dit on veut 27 titres.
Exactement. Ouais. Au départ, ils avaient fait une commande de 4 ou 5 titres, je sais plus exactement.
Ouais. Puis au fur et à mesure
de leurs besoins, de voir aussi comment leur système de jeu évolue.
Ouais.
On est passé, on a rajouté des éléments un peu.
Et c'est pas un challenge quand t'arrives au 27e de te dire que ça se trouve, en termes de couleurs et tout, il y a un gros décalage avec un titre que t'as composé 3 ans avant.
C'est arrivé.
Ouais.
C'est arrivé, justement, mes tout premiers morceaux sonnaient beaucoup plus synthwave, cyberpunk. Et je crois, au bout du 4e ou 5e, J'ai commencé à un peu mieux comprendre la direction, dans cette direction qui utilise des éléments symphoniques. Et je suis revenu sur mes tracks d'avant pour un peu homogénéiser, tu vois, l'ensemble des tracks, quoi.
Ouais, c'est super, super intéressant, ça, parce que j'ai des questions que je me pose aussi. Comment tu fais pour rester? Parce que tu sais, la musique, c'est aussi une énergie, c'est un feeling que t'as au moment où tu composes et tout. Et c'est la même chose dans la construction d'un album. Mais je me dis toujours, t'assurer que le projet il est cohérent, tu vois, et qu'il y a pas des trucs qu'on.
Ça c'est un vrai travail. Enfin, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais à ma connaissance, c'est un travail aussi que tu fais en équipe souvent.
Bah ouais, normalement t'as quelqu'un qui peut juger, mais si tu as bossé seul.
L'étape de mastering est importante aussi quand même pour apporter un peu d'homogénéité à l'ensemble de l'album. Et puis après, il y a des velléités artistiques, des façons de mixer, des choix d'instruments, etc., qui te permettent d'apporter de la cohérence aussi. Mais t'as raison, j'imagine que quand ça s'étale beaucoup dans le temps, c'est plus difficile.
Des changements
comme
de mood et tout.
Et ça, puis rien qu'en termes de BPM. Ouais. Par exemple, si t'as pas vraiment joué au jeu, faut arriver à s'imaginer, ce que je disais, le rythme du jeu, à quel point tu vas faire des actions rapidement ou pas. Et le BPM dans la musique est super important pour ça, quoi. Il va vraiment dicter, enfin, tu prends l'exemple de Doom de 2016, là, avec l'OST de Mick Gordon.
Ouais.
C'est super vénère, ça va très vite.
C'est très, très énervé.
Si tu mets ça sur un jeu de stratégie, tu vois, il y a un petit problème, quoi, en termes d'intensité.
Mais du coup, comment ça, tu t'en assures si toi, tu peux même pas jouer au jeu pendant que tu...
Bah, t'as des références. Moi, ils m'ont dit, ce jeu, il va ressembler un petit peu à Advance Wars, à Into the Breach, à tout ça, quoi. Donc, j'ai fait aussi mon travail de recherche de voir dans ce type de jeu, quel est le type de musique qui est utilisé. Après, ce qui est intéressant avec The Last Spell, c'est qu'il y a vraiment ce parti pris de mettre du métal, qui est du coup assez intense. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant à la fois, quoi.
T'as un morceau plus métal sur la BO de The Last Spell qu'on pourrait écouter?
The Great War. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle comme ça.
Okay.
Je me rappelle jamais des titres. Hein. Depuis c'est le début, là, c'est une catastrophe.
Exact, The Great War. Allez, c'est parti.
Là, on a le côté un peu plus symphonique, du coup.
Ouais.
Les guitares.
Effectivement, on voit le plus le côté métal. Mais effectivement, avec très orchestré, etc., c'est le côté symphonique, on est dans une BO, quoi.
Ouais, et du coup, t'as des souhaits, toi, que t'as des types de jeux sur lesquels t'aimerais bosser, justement, ou...
Doom, hein. Directement, c'est vraiment le.
Et est-ce qu'on doit aimer le jeu? Alors on n'y a pas forcément la chance de pouvoir y jouer en amont quand on compose, mais l'esprit, l'univers, le type de jeu, mieux vaut être en adéquation avec ça ou?
C'est comme tout, oui, forcément. Si quelque chose te parle, tu vas être enclin en fait à y mettre un peu plus du tien que si c'est un vieux jeu pourri, tu t'en fous. Parce que c'est évident.
T'as déjà fait une OST pour un jeu un peu pourri, t'étais déçu à la fin ou...
J'ai fait des OST pour des jeux qui ne sont jamais sorti.
Ouais.
Ah,
ouais, et où je savais que c'est pas grave parce que je savais qu'ils allaient être pourris. Donc.
T'étais payé quand même, j'espère.
Oui, ouais. Bon. Ça faut toujours être payé avant.
J'avais noté, il y a un morceau en particulier que j'aime beaucoup de toi sur d'autres BO que The Last Spell, donc qui est le tout dernier jeu, la toute dernière OST sur lequel t'as travaillé, sur laquelle t'as travaillé. Moi, il y a le morceau Sabotage sur Acnet Labyrinthe que je trouve trop cool. En fait, je trouve le riff ultra efficace. On peut s'écouter ça
yes,
va, ouais.
Vas-y.
Allez. Tu vas Ardas, tu vas avoir envie de bouger la tête normalement.
C'est pas la même ambiance, hein.
Ça arrive.
Ah oui. Ça, c'est quand on joue, on a ce son-là.
Ouais. Et le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en arrière-plan, vous pouvez entendre comme des bruits d'alarme, un petit peu.
Ouais.
Et ça a été requesté, en fait, par le dev.
C'est le tel, non? Celui-là?
Non, il y a une espèce de. Ouais, voilà, exactement. justement parce que dans le jeu il y a un truc, une alarme qui retentit et t'as besoin de ressentir un peu ce côté j'ai pas le temps.
Ouais, donc t'as l'urgence, hein, parce que là moi j'avais un morceau comme ça sur un jeu genre Hacknet, j'ai les mains moites quoi. Là tu fais ah non, c'est cool,
c'est stylé, mais c'est Hacknet en l'occurrence, mais c'est la version labyrinthe, c'est quoi,
c'est un DLC.
Ah ok, on se remet juste un petit extrait celui-là.
Vas-y.
J'arrête là.
Avec les tomes façon Miami Vice. Du coup, la question que j'ai aussi, parce que j'ai plein de questions à
vas-y,
chaque fois.
Vas-y.
Est-ce que tu as accès, quand toi tu composes, à la librairie sonore du jeu pour justement utiliser éventuellement des assets qui vont...
Non. Moi non, j'ai jamais eu accès à ça. Après, il me semble... En fait, non. J'ai eu accès à des samples de voix de certains personnages du jeu.
Ouais, d'accord.
Non, en fait, je raconte n'importe quoi. C'était sur un autre jeu. C'était pas sur The Last Spell ni sur Hacknet. C'est sur pour un jeu mobile qui s'appelle This Light. Où là, du coup, ils m'ont vraiment envoyé tous les assets de voix des personnages parce que le concept... c'était de créer une musique pour un personnage en particulier. Mmh. Donc, ouais, il fallait que j'aie accès un peu à cette voix, voir un peu comment le personnage...
Pour savoir un peu comment... Ouais. Ouais, comment
mais effectivement, les assets musicaux ou
des bruitages...
Des
bruits, ouais.
Non, ça, non. J'ai jamais vraiment eu. Mais c'est une bonne idée, pourquoi pas, pour mes prochaines...
Ouais, pour renforcer encore plus, tu vois, le lien entre...
La cohésion, ouais.
Ouais, entre ce qui se passe à l'écran et vraiment... Effectivement, tu as utilisé carrément les banques de sons du jeu, bah là c'est...
Après ça peut peut-être porter à confusion si tu utilises des bruitages du jeu dans la musique.
Les gens entendent des bruits qui n'existent pas. C'est vrai.
Mais j'ai une question un peu thune et peut-être que ça nous permettra de passer à la dernière partie de ce podcast où on va parler un petit peu
la
carrière,
moula.
Business, etc.
La moula.
Ça se deal facilement. Tu disais que c'était un peu là, au niveau artistique, la dernière roue du carrosse quand même, la musique, sur un projet jeu vidéo. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau financier, d'une part? Et ensuite, comment ça se passe? T'as un fixe? T'as éventuellement, si le jeu marche mieux, c'est cool et t'as plus d'argent par rapport aux droits aussi. Les droits sur l'exploitation ensuite des morceaux quand ils sont utilisés sur les trailers, des trucs comme ça. Enfin, ça se passe comment un peu tout ça?
Alors, ça dépend vraiment du projet, la façon dont on va négocier aussi le budget qu'ont les développeurs. Donc, typiquement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais un mix un peu de tout. Donc, j'ai une fille en fait qui est fixe une fois que je suis payé, une fois que j'ai composé le morceau, une fois que tout est livré, et après je peux avoir en pourcentage soit sur les ventes du jeu, soit il peut arriver que l'OST en fait soit vendu avec le jeu, notamment sur Steam, c'est possible de vendre des OST. Okay. Il y a beaucoup de typiquement avec The Last Spell, tu peux acheter un bundle en fait avec le jeu plus l'OST, et du coup là tu récupères aussi un pourcentage sur ça quoi, qui est plus important forcément vu qu'il y a l'OST quoi. Mais ouais, il y a un peu tout. Il y a aussi des projets qui veulent pas te filer des pourcentages. Il y a des projets qui ont pas forcément de budget au début. Du coup, ils te promettent que des pourcentages. En général, c'est mauvais plan parce que typiquement, si le jeu n'arrive jamais, tu fais comment, quoi.
Ouais, tu travailles gratuitement, quoi.
Donc, faut trouver un peu un équilibre avec ça. Et pour être honnête, j'ai toujours eu des deals qui étaient très intéressants financièrement. Mmh. Après, effectivement, il y a beaucoup de deals que j'ai refusés justement parce que financièrement et puis même au niveau du jeu, c'était pas forcément intéressant pour moi, quoi.
Il y a de plus en plus une reconnaissance, parce que la musique et le jeu vidéo, c'est un truc qui est lié depuis toujours, tu vois, quasiment, même à l'époque où ça faisait blip et blup, tu vois. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a de plus en plus une reconnaissance des compositeurs, où on n'hésite pas à les nommer, parce qu'avant c'était les Yuzo Koshiro ou des mecs comme ça qui étaient, ou Uematsu qu'on a entendu, mais des compositeurs européens, américains, etc. J'ai l'impression que pour même les joueurs, il y a plus de reconnaissance du taf de compositeur de musique de jeu qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, quoi. C'est vraiment
je m'en rends pas compte, moi.
Dans les années 90, c'était quand même pas mal. Cet aspect-là était quand même pas mal développé, justement. Mentionné avec Uematsu.
Il était développé, mais c'était des méga noms, tu vois, des gens très très connus, mais t'avais quand même plein de jeux qui sortaient où on savait pas trop qui avait bossé sur la musique. C'était dans les crédits du jeu, tu vois, mais c'était pas forcément autant, tu vois. J'ai le souvenir de Streets of Rage, justement, de Sega sur Mega Drive, où t'as carrément le nom du compositeur sur l'écran titre, tu vois, et à côté du Sega 1991, tu vois, Yuzo Koshiro ou je sais plus, ouais, c'était lui. Et mais ça, c'était une exception en fait à l'époque, tu vois. Les gens qu'on fait la musique de Sonic ou d'autres gros jeux comme ça, tu sais pas en fait. On va te dire ouais, c'était des gens de la Sonic Team ou à l'époque des jeux Konami, c'était le Kokea Club, tu vois. C'était en fait c'était des collectifs ou la Sega Sound Team. Il y avait pas un nom qui sortait comme tu vois Gareth Cocker sur Ori par exemple ou bah toi sur The Last Spell, ou vraiment le limite c'est un argument.
Ça, marketing, ça c'est vrai par contre, ça d'avoir y a eu
et le fait que tu vois Steam vende les OST aussi, ce qu'ils faisaient pas avant, c'est que vraiment il y a un truc où le studio maintenant c'est un facteur aussi commercial de se dire on prend quelqu'un qui est coté pour faire le son et ça va nous aider même.
Il y a un super exemple parce que c'était une réussite incroyable, même je crois inespérée. Enfin, c'était pas prévu. C'est Fury, la bande originale du jeu vidéo Fury, sur lequel justement il y a du Carpenter Brut, du Danger, du Lorne, du Toxic Avenger qu'on avait reçu dans cette émission et qui a été un carton absolu. J'ai même l'impression que l'OST a supplanté le jeu. Ouais, même c'est devenu
complètement
quelque part. Ouais. Et ouais, je pense que t'as raison. Miami, bien sûr. Que le fait de faire appel, mais un peu comme dans le cinéma en fait. J'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert qu'à une époque ces univers où tu avais du spécialiste du jeu vidéo qui faisait que ça à une époque, t'avais du spécialiste de la musique de cinéma qui faisait que ça, et qu'aujourd'hui les univers se croisent un peu plus, qu'on ouvre à des artistes qui ont déjà une carrière en parallèle parce que parfois c'est un argument marketing, mais aussi parfois parce que c'est sa culture et qu'il a envie j'ai un peu sentiment que ça se mélange plus. Je sais pas si c'est vrai.
C'est arrivé aussi dans les années 2000. Il y a eu notamment Nine Inch Nails sur Quake.
Ah oui.
Ouais, il y a eu des trucs comme ça. Je crois qu'il y avait Iron Maiden aussi sur un jeu Carmageddon, un truc comme ça.
Ouais, et puis t'avais sur Wipeout, t'avais Chemical Brothers. Mais en fait, c'était
après,
vraiment
quand tu composes spécifiquement, c'est une chose, mais quand on utilise des morceaux que t'as déjà fait, c'est pas la même chose.
Ouais, c'est vrai
qu'il y a toute la vague Tony Hawk, etc.
Exactement.
Oui, parce que sinon, ça c'est le jeu de sport avec
tous les e-sports, FIFA, machin, bien sûr.
Mais effectivement, j'ai l'impression. Après, tu vois, t'as aussi par exemple les Démons du Midi, un podcast. Oui. Fait par Gotos et Pipo que je salue, podcast qui est terminé je crois maintenant, mais qui justement mettait l'accent sur la musique de jeux vidéo parce que c'est réellement un truc, c'est pas juste un accessoire au jeu en fait. Moi il y a des jeux auxquels j'ai pas retouché depuis 20 ans, mais j'écoute encore la BO, tu vois, et je me dis la musique ça reste vraiment.
Bien sûr. Parce que c'est pas justement parce que maintenant on a toute cette génération qui a du recul sur toute cette époque-là où ça nous a tous marqué, tu vois, donc forcément maintenant c'est plus facile.
Oui, c'est vrai que en fait en tant que joueur toi-même tu te dis OK, je vais pas faire n'importe quoi, je vais faire un truc stylé parce que c'est important, et puis parce que ça survit, tu vois, tu parlais de Fury. Et en fait, il y a plein de trucs qui survivent au jeu, quoi, vraiment, pour le coup.
Bien sûr.
Alors que des gens qui jouent, tu vois, des gens qui écoutent de la musique de jeu 20 ans plus tard, il y en a. Des gens qui jouent encore au jeu 20 ans plus tard.
C'est pas la même, c'est
tu
vrai.
Tu vois, sachant que le gameplay évolue. Ouais, mais tu vois, il y a des jeux, moi, j'ai plus jamais de ma vie, je vais les toucher parce qu'en fait, c'est un cauchemar.
Bien sûr.
Mais par contre.
Star Citizen.
Par exemple, encore que Star Citizen, c'est encore différent. On fasse une émission consacrée à Star Citizen.
Tu joueras encore.
D'ailleurs, la musique de Star Citizen est très cool, ouais.
Ok.
Ouais. Justement, c'était le seul truc qui marche. Donc,
les amis, on reparlera dans DLT de musique de jeux vidéo. D'ailleurs, justement, nos amis de Kid Katana, donc le label avec qui tu as sorti l'OST, on les recevra dans cette émission parce que c'est un truc qu'on essaie de faire depuis longtemps. Ils ont notamment bossé sur des grosses licences, sur du Street of Rage, sur Tortue Ninja, des choses comme ça.
Ah oui, sur le remake de.
Absolument, les récents.
Ah, yes.
Et on parlera un peu de tout cet univers de
très beau, les jeux
vidéo. Pour terminer, Rémi, une petite partie sur l'aspect un peu carrière, etc. On va simplifier. Je voulais qu'on fasse une grande partie, mais on a beaucoup parlé de musique et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais
cool.
Mais il y a quand même quelques éléments que j'aimerais aborder. Et il y avait ce truc que je disais tout à l'heure. Tu sais, quand on fait une musique qui est pas la plus bankable du monde, tu vois, on peut se le dire clairement quand même. Comment on fait pour essayer de trouver une stratégie, un business model, vers qui on se tourne, comment on trouve un label, comment on arrive à avoir un peu de couverture médiatique, comment tu t'en es sorti, qu'est-ce que tu as essayé de faire?
Alors, c'est vrai que quand je me suis lancé, c'était vraiment quelque part une autre époque, donc je pense que j'aurais pas forcément les mêmes conseils qu'à l'époque, hein. Je pense qu'aujourd'hui il y a toute une démarche qu'on peut avoir sur la création de contenu notamment, qui était pas forcément très développée il y a 10 ans.
C'est sûr.
Moi, la façon dont je me faisais connaître à l'époque, c'était d'envoyer mes albums sur des forums russes pour qu'ils soient disponibles au téléchargement pour tout le monde, quoi. Donc, sur des torrents, je sais pas où. C'était vraiment une démarche assez différente. Aujourd'hui, ça serait, voilà, il y aurait toute cette composante un peu création de contenu. Après, vraiment en termes de payer les factures, tout ça, je pense qu'il y a une démarche de diversification qui est importante. Mmh. Moi, c'est vraiment aussi peut-être pour ça que j'ai voulu m'orienter vers de la musique pour l'image. J'ai fait pas mal de productions aussi pour des artistes, du mixage, du mastering. Donc il y a vraiment toute cette dimension. Ok, t'es un artiste, mais t'es aussi un technicien quelque part, mmh. et tu peux fournir vraiment une plus-value, un produit à quelqu'un qui en a besoin, quoi, mmh. ou un service. Donc c'est vraiment voilà dans cette idée-là. Puis il faut pas oublier qu'il y a plein de choses. Tu peux développer plein de trucs avec des produits dérivés, du merch. Il y a plein de choses à faire en fait avec Internet et avec les outils qu'on a disponibles. Faut peut-être juste avoir les bons interlocuteurs, faut avoir les bonnes relations. Ça c'est peut-être difficile au début de se les former, mais je pense que rien n'est impossible. J'y suis arrivé en étant relativement timide, donc je pense que.
D'ailleurs, en parlant de merch, l'épisode précédent, on a reçu Big Wax, qui était les distributeurs musicaux. Est-ce que toi, ta musique est disponible en vinyle ou est-ce que...
Ouais, bien sûr. Ouais. Tous mes albums sont en vinyle, même The Last Spell, ouais. qui, je crois qu'ils sont pas encore disponibles. Ça va être dans les prochains mois avec voilà un vinyle avec un livret à l'intérieur avec des artworks ouais. Inédits. Du jeu, donc même les...
Donc un collector, quoi.
Voilà, ouais, ouais. Même les gens qui ont kiffé le jeu, pas forcément l'OST plus que ça, tu vois, ça peut les intéresser aussi. Mais ouais, tous mes albums sont j'ai même sorti un album en cassette audio, en 2018, et ça s'est très bien vendu.
C'est vrai?
Ça s'est très très bien vendu, ouais. Il y avait ce côté un peu rétro, synthwave, ah bah ouais, tu vois, ouais. qui colle assez bien, quoi.
Ouais, donc pour toi quand même, le fait de publier physiquement ta musique, ça reste important. Enfin, c'est dans ta démarche à toi, t'imagines pas sortir un album qui n'est pas son pendant vinyle disponible?
Disons que c'est vrai que la plupart de mes fans auront tendance à vouloir des éditions physiques. C'est vraiment un truc qui est souvent demandé quand je sors un album. Donc si la demande est là, à partir de ce moment-là, tu fais l'effort, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est peut-être un truc qui est, encore une fois, assez spécifique à la scène métal, qui est peut-être plus habitué à ce genre de démarche.
Une culture du merch, voilà, du t-shirt, etc., ultra important.
Que dans la scène, je sais pas, EDM, par exemple, où ça va plus être une culture du single. Il n'y a pas forcément autant de merch, autant de produits dérivés, quoi.
Ça a été important pour toi la signature avec Basic Records en 2012. C'était une étape pour la professionnalisation qui t'a.
Ouais, complètement, ouais. Complètement. Bah déjà ils avaient le budget pour financer un clip que j'avais pas forcément moi de ma poche. Et rien qu'en termes de contact, du coup j'étais. Bah, en fait c'est grâce à eux que j'ai rencontré ce batteur Mike Malian de Monuments. Donc c'est vraiment par leur réseau que j'ai pu me former mon propre réseau aussi par la suite. Et ils avaient tous les outils marketing, tous les outils PR, tu vois, pour vraiment communiquer sur l'album. Ouais. Et je trouve que ça a vraiment boosté la sortie de l'album pour le coup sur des choses que techniquement j'aurais pu les faire moi-même, mais en fait en tant qu'artiste t'as pas forcément le temps de t'occuper de tout ça, donc parfois c'est bien de s'entourer.
Et pourtant, si je dis pas de bêtises, tu bosses plus aujourd'hui avec eux. Bon alors, sur The Last Spell, c'est différent, mais sur ton dernier album, d'ailleurs, qui est pas vieux, attends, il faut que je retrouve le nom de l'album, rappelle-moi.
Data Renaissance.
Sur Data Renaissance, tu le sors avec un label, tu le sors indé.
Ouais, il est sorti sur Fixed, qui est un label qui a sorti Brute Force en 2016, du coup.
D'accord.
Donc c'est vraiment le même label, c'est un label américain qui se spécialise du coup un petit peu dans cet amalgame de genres entre métal et électronique. Ouais. Donc ils sont vraiment spécialisés dans ça, ils ont tous les contacts qu'il faut.
Et du coup, il y a les produits dérivés sur Spotify, effectivement. C'est vrai que j'oublie à chaque fois.
Exact, on le voit. Ouais. On en avait parlé avec Big Wax. Ouais. Ça, c'est l'avenir aussi. C'est d'utiliser, sur le modèle Bandcamp, qui le fait beaucoup, il faut que les plateformes type Spotify, qui sont évidemment le canal principal d'écoute de la musique aujourd'hui, il faut que les artistes puissent mettre leur merch dessus. Etc.
Et ça, typiquement, c'est pas facile, en fait. Faut passer par un service externe qui s'appelle Merchbar, je crois. Okay. Et c'est un truc, j'avais essayé de le faire tout seul et c'était vraiment compliqué. Donc le label, encore une fois, il peut aider à établir ce genre de choses et à mettre en avant...
La logistique, l'administratif et tout.
Avec les stocks aussi du merch, c'est super complexe.
Et un modèle indé, justement, en bossant avec un distributeur sur un contrat de distribution, c'est pas un truc qui t'a déjà...
J'ai essayé de faire ça une année et j'ai eu beaucoup de problèmes en fait. Disons que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Tu peux tomber sur des personnes qui sont pas forcément professionnelles. Alors tu peux tomber sur des personnes intéressantes aussi, mais voilà, faut savoir s'entourer avec des personnes à qui tu peux faire confiance, ce qui est pas forcément évident quand t'es indépendant, quoi.
Et pour toi, ça a toujours fait partie, la discussion qu'on a, les réflexions que tu as menées, les choix que tu as fait, ça a toujours fait partie du métier, ou fondamentalement, ça t'a toujours fait chier, toi, t'as juste envie de faire de la musique dans ta chambre, tu vois.
Oh, y a un peu des deux, je pense, d'en faire un petit peu, tu vois, de gérer le côté business de temps en temps, c'est intéressant. Après, il y a des choses que j'ai faites, donc typiquement gérer la logistique du merch et tout. Je me rappelle, j'habitais à Berlin, j'avais un petit appart, une coloc, j'avais une chambre très petite et j'avais tous mes cartons en fait de vinyle dans la chambre. Et en plus, je répétais mes concerts, donc j'avais tout mon setup de live déjà préparé, genre. Du coup, littéralement, ma chambre, c'était, tu pouvais pas marcher quoi. Fallait escalader les cartons et tout. Ouais. Donc, le faire tout seul, c'est possible, mais ouais, c'est compliqué. Ouais.
On termine, Daz, sur cette question, parce que on avait débuté en l'évoquant, et elle est quand même ultra intéressante sur l'équilibre de vie en tant que musicien, et sur le fait que toi, bah, t'as vécu de ta musique. Et raconte-nous un peu comment ça se passe, parce que avant le Covid, en gros, tu passes des années et des années sur la route, en fait, en tournée.
Ouais,
et depuis... tu vivais que de la musique.
Ouais, depuis 2012 jusqu'à 2019... beaucoup de tournées, beaucoup de festivals. On a fait notamment le Download Festival en Angleterre, qui est un des plus gros festivals, peut-être le plus gros festival d'Angleterre. On a fait Australie, on a fait Japon, on a fait Canada. On avait pas mal de trucs. Et c'est une expérience que j'ai absolument adorée. C'était génial d'être au contact plus proche des gens, en fait, des fans. C'est un sentiment qui est incroyable.
Usant aussi.
Très usant, en fait, ça va vraiment dépendre des tournées. Il y a des tournées qui étaient très difficiles. Je pense notamment à la tournée au Canada où on a fait littéralement de l'ouest à l'est du Canada en van. Je crois qu'on a fait une quinzaine de dates. Et je crois qu'il y avait trois dates où il y avait vraiment qui étaient intéressantes. Le reste, il y avait personne au concert, donc c'était l'enfer. Il y avait le merch qui était bloqué à la frontière, donc on n'a pas eu de merch avant la fin. On dormait dans le van, on faisait des trajets de 19 heures entre les villes, c'était l'enfer.
Mais ça, tu bossais avec un tourneur du coup pour ça ou
Là, c'était vraiment un truc un peu à l'arrache.
Ouais.
C'était un tourneur de là-bas, mais je pense que c'était sa première tournée.
Ah merde.
Ouais. C'est bien parce que du coup, ça te permet aussi de voir ce que tu veux et ce que tu veux pas. Hein. Parce que ça ressemble en fait à l'expérience de JB justement. Ouais. Dans Sale Chien, il raconte ça, les tournées à l'arrache au fin fond de la Sicile. Et ouais, en fait, ça touche vraiment tout le monde sur toutes les scènes.
Complètement. Mais de l'autre côté, il y a des tournées qui sont extrêmement bien passées. Je pense notamment à la tournée avec Perturbator, la tournée avec Aken aussi, qui est un groupe de metal prog anglais. Mais ça, c'est les tournées où t'as un tourbus. Donc, t'as tout le confort, tu finis ton concert, tu remballes. T'as juste à aller te caler dans le bunk, dans le bus, tu dors. T'es sûr d'avoir tes 8 heures par nuit, quoi.
Ouais.
Et tu te réveilles, t'es dans une nouvelle ville, c'est quand même cool. Quand tu dois gérer tout ça toi-même avec ton van et que tu dois conduire de Madrid jusqu'à Berlin, vraie histoire, on a vraiment fait ça.
Oh là là.
C'est l'enfer, quoi. C'est juste horrible. Il y a des moments, tu pètes un câble et c'est très difficile. Et malheureusement, c'est un peu la loi du marché, quoi.
Ouais.
Plus t'es gros, plus c'est facile d'avoir tes tourbus, tes trucs, ton budget.
Ouais,
plus t'es à un niveau intermédiaire, on va dire, plus tu vas galérer dans ton van, quoi.
Et du coup, là, quand le Covid est arrivé, arrêt total de tout ça. Je pense que c'est là que tu voulais venir, Salman.
Ouais.
Comment t'as perçu le truc? Parce que ça veut dire que d'un seul coup, t'as plus d'activité avec le public. Est-ce que tu te dis mon bise est peut-être en danger? Est-ce que t'as ressenti une angoisse, une anxiété par rapport à ça ou...
Non, pas du tout. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça faisait déjà pas mal de temps que je comptais un peu faire une pause en fait sur les concerts, les tournées.
Ouais.
Et fin 2019, donc juste après la tournée Perturbator, j'annonce, je fais une pause des concerts.
Ah 2000, donc ça tombe
2020,
bien.
Il y a le Covid. Voilà. Donc littéralement, 2 mois plus tard, il y a le Covid. Quoi. Donc j'avais déjà un peu préparé le truc. J'avais le contrat avec The Last Spell qui avait déjà commencé. J'avais aussi commencé mon activité dans l'informatique à côté, donc j'avais pas mal de voilà de ressources financières pour continuer sans les concerts. Et c'était prévu, c'était vraiment ce que j'avais prévu.
Ouais, t'as eu une sacrée chance. Hein. Donc, bol.
Donc j'étais pas vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes, voilà, ouais, force à eux, hein, beaucoup de groupes d'artistes qui ont été impactés par ça, techniciens aussi énormément. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'éviter les balles, quoi.
Oh, la chance, ouais. Bien ouais.
Et pour autant, lorsqu'il y a la possibilité de refaire des concerts. Après le Covid, tu avais fait un choix et tu t'y tiens à ce choix. Et est-ce que ça veut dire que tu feras plus de tournées ou est-ce que tu te diras peut-être de manière sporadique, mais en tout cas, revivre la vie de tournée pendant 7 ans de suite, t'es tout le temps sur la route, t'as plus envie de ça?
Non, cet aspect, ouais, galérer comme ça sur la route pendant très longtemps, ouais. Peut-être pas. Ouais. Après, oui, sporadiquement, ça peut être intéressant, notamment dans des festivals. Je sais que j'ai déjà, j'ai pas mal de propositions que j'ai pas honorées, mais potentiellement que je pourrais honorer un peu plus tard. Ouais. Ouais, après il y a aussi toute une dimension de voilà les tournées, faut les préparer aussi, c'est quand même pas mal de répétitions, de mise en place, de trouver les bons techniciens, etc. Donc il y a tout ce travail de logistique à faire qui prend quand même pas mal de temps. Donc ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain, mais je pense qu'il y aura un moment oui où ça reviendra sur scène. Juste pour le moment, j'ai mes petites habitudes, j'ai mon équilibre aussi avec ces OST, avec ces projets où j'ai pas forcément le temps de faire autre chose. Mmh. Donc j'essaie de profiter de ça et puis on verra pour la suite.
Et c'est marrant parce que tu vois l'idée de dire j'ai moins envie de tourner en live, je veux me sédentariser par exemple, tout simplement, ou avoir une vie un peu plus équilibrée, ce que je peux comprendre. Est-ce que c'est fatigant effectivement les tournées? T'aurais pu faire ce choix sans prendre un métier, reprendre un job conventionnel entre guillemets, c'est-à-dire en disant bah je repars sur les sessions, pourquoi pas, enfin en tant qu'ingé son, faire des mix, j'en sais rien, essayer de choper un peu des contrats à droite à gauche, en bouffer, tu vois, quand même de la musique, même si je suis un peu plus fixe, Et là non, tu t'es dit vraiment c'est faire du dev en parallèle. Enfin tu vois, ça peut paraître même étonnant. Et est-ce que même limite ça te rend plus, est-ce que ça te rend plus heureux, est-ce que même d'un point de vue créatif ça te nourrit en fait de faire autre chose à côté, j'en sais rien. Enfin c'est
déjà, faut savoir que je déteste le mixage, donc être ingé son, pensez-vous les gars. ingé son, je pourrais vraiment pas. J'ai déjà mixé des groupes et tout, c'est à l'enfer, je déteste ça. Okay. Quand c'est pas mes projets, ouais. Ça me saoule en fait. Okay. Donc, c'est, comme tu disais, cette direction-là, elle m'allait pas forcément bien. C'est vrai que le dev, bah, je suis quand même passionné d'informatique depuis très longtemps. Je considère ça comme étant un petit peu ma première passion en fait.
Tu dev en quel langage d'ailleurs?
JavaScript.
Ok.
Et ouais, du coup, j'avais toujours ce truc, je pense que je l'ai depuis longtemps, tu vois, ce truc de me dire, un jour, je reprendrai ça. Et voilà, j'ai fait, je crois que j'ai fait un an en salariat quand j'habitais à Berlin et je suis parti en freelance après un an. Et maintenant, j'ai des clients, ils sont récurrents, tout le monde est heureux. Et je m'éclate, je fais mes petits trucs de dev à côté. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que vu que je suis freelance, donc indépendant, je peux très bien décider, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant la composition de The Last Spell, je peux très bien décider pendant un mois ou deux de pas taffer, de taffer sur l'OST du coup. Donc j'ai cet équilibre et j'ai cette gestion du temps
flexibilité,
qui est vachement intéressante, c'est que si j'ai pas envie de faire musique, je fais pas de musique. Et c'est vrai que c'était vraiment moi cet aspect qui me saoulait un petit peu, comme je l'expliquais tout à l'heure, tu vois, devoir récupérer des contrats qui sont pas forcément intéressants. Je voulais essayer de m'écarter un petit peu de ça, quoi.
Et c'est bénéfique, tu penses, pour ta production artistique en parallèle, de parfois couper?
Complètement, ouais. Ouais, parce que ça me permet vraiment d'avoir un recul. Alors c'est à double tranchant, parce que ça me permet d'avoir un recul vraiment sur ce que je crée et de pas être la tête dans le guidon, vraiment 100% dedans. Des fois, je fais des coupures d'une semaine, deux semaines, deux mois. Tu vois, ça peut vraiment varier. Mais à la fois, quand t'es pas vraiment dedans tous les jours non plus,
Tu stagnes un peu.
Tu rates des choses. Ouais. Tu fais moins de veille sur certains trucs. Simplement, le fait de moins pratiquer te rend peut-être moins bon quelque part. Donc, c'est un peu à double tranchant.
Il faut trouver vraiment l'équilibre.
Pour le moment, le seul moyen que j'ai trouvé de trouver l'équilibre, c'est de taffer plus. Bonjour le burn-out, bienvenue. Mais pour l'instant, ça va à peu près.
On a fait un bon point, non?
Ouais,
un bon
tour. Ouais, super cool.
C'était passionnant, Rémi, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
On va terminer avec notre tradition dans DLT, à savoir on termine avec des recommandations. Est-ce que tu as envie de faire découvrir un morceau, quelque chose que tu apprécies, que tu as poncé récemment, ou un classique pour toi, que tu as envie de... faire découvrir à nos auditeurs. C'est vrai, pas du tout. C'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Mais Daz, tu veux commencer?
Ouais.
T'as une petite idée? Réfléchir, mais en même temps.
C'est un morceau qui s'appelle Higher.
Ok.
D'un artiste qui s'appelle Moles Monday.
Comment que ça s'écrit?
M-A-L-Z.
M-A-L-Z.
Moles.
Ok.
Voilà. C'est Spotify qui me l'a reco. Et j'ai trouvé ça très... Tu sais, dans ma vibe minimaliste,
ouais.
Il n'y a pas grand-chose.
Un
sample qui tourne. Et
un cigare et on est bien.
La rythmique, elle arrive au bout de 2 minutes 30, tu vois. Tu fais bon, ok. Et ça marche bien, j'aime
ça
bien.
Ça marche bien.
Ouais.
Eh ben écoute, on essaie. Ailleurs, Moles Monday. Ah, je reconnais le Daz.
Ah bah là,
on n'y parle pas partout.
Il n'y a que ça. Michelin, yeah, he on this shit again. Don't compare me less as Big Pac, Hov, Nas, and Eminem. Nothing like them other rappers, it's too many of them. I'm a legend, gotta treat me like the seventh with a weapon. Good enough is not enough, I need that guala piling up. Fuck the poverty, need my pockets on hippopotamus. Propaganda turned the whole populace to a populace. Ouais, sachant que ça arrive à 1 minute 40, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais,
je te dis le... Et j'aime bien la vibe, bon, c'est dans mon délire,
ouais,
c'est les Freddy Gibbs, Alchemist, etc.
Je comprends le plaisir, ce côté hypnotique au bout d'un moment, quoi, ouais, avec ce sample.
Juste
très cool.
Est-ce que t'as eu une illumination entre temps, Rémi, ou est-ce que j'enchaîne?
Je pense que je vais faire un big up à mon poteau.
C'est vrai, bah vas-y, fais un big up à un poteau, bien sûr.
Poteau Rainbow Dragon Eyes.
Alors.
Donc, c'est une OST, du coup, que je vais recommander, une OST pour le jeu The Messenger. Je sais pas si vous l'avez
pas du
vu
tout.
Tourner.
Et ça dit quelque chose, hein.
Du coup, cette OST par Rainbow Dragon Eyes. Je sais pas.
On commence avec l'introduction. On
tente. Ouais, vas-y. On verra bien.
Allez, on fait comme
ça. De toute façon,
ça.
Tout est bien. Donc,
c'est la BO du jeu vidéo The Messenger, c'est ça?
C'est ça.
Jeu vidéo. Et c'est Rainbow Dragon Eyes.
C'est composé avec une Game Boy, bien sûr.
C'est vrai?
Oui.
Oh.
Comment s'appellent ces trucs, hein? Les trackers, non? Ouais, c'est vrai. J'imagine que c'est un genre 2D.
Ouais. Et c'est un jeu qui est rigolo parce que il mélange un petit peu les sprites 8 bits avec les sprites 16 bits. En fait, t'as vraiment cette dualité entre les deux univers et ça switch vraiment entre les deux styles graphiques. C'est assez rigolo.
Encore deux jeux, quoi.
Ouais. Et même la musique, il y a de la musique qui est composée expressément en 8 bits et de la musique composée en 16 bits.
Ah,
vraiment,
ouais,
ça suit
l'ensemble. Super.
Ça suit la direction artistique
du
truc.
Et bah, très cool, allez écouter l'OST de The Messenger.
Allez jouer au jeu même.
Allez jouer au jeu.
Moi, j'avais le note.
T'as raison, c'est encore.
Allez jouer à The Last Spell aussi.
Mais The Last Spell, bien évidemment.
Bien sûr. Et je termine. Écoute, moi, j'ai choisi un morceau que j'ai découvert récemment dans une roco aussi parce que, figure-toi, Daz. Que en ce moment, tous les 15 jours, on fait un petit live Twitch avec l'équipe de Monte le Son.
Oui,
Si vous êtes des auditeurs du podcast, vous savez qu'il y a aussi la version vidéo de ce podcast et que globalement, même DLT fait partie d'un projet un peu plus large qui s'appelle Monte le Son. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. On est plusieurs dans l'équipe à faire tous des formats, dont moi avec ce podcast. Et on se réunit en fait tous les 15 jours sur Twitch, le MLS Club, où on discute, on débat autour de quelques sujets de
personne n'a invité,
bien sûr.
Mais
tu viendras,
t'inquiète,
tu viendras, c'est prévu.
Ah, ça fait plaisir.
Et on termine aussi avec des recommandations. Et comme on n'est pas sur YouTube, on en profite, on se fait plaisir, on les met en entier les morceaux déjà.
Mais oui,
j'avoue que c'est cool.
Vous faites quand même shooter les replays normalement parce que
ça,
Twitch,
oui.
Being Twitch, mais ok.
Mais bah, après, enfin pour te dire, il y en a eu 3 pour le moment et il y a que sur le 3e qu'on a réussi à avoir vraiment le replay. On avait fait n'importe quoi. Donc, je te dirais avec l'expérience si réellement ça se fait shooter ou pas. Et bref, j'ai mon collègue Chili Toy, Raoul, qui a fait une reco et que je vais lui voler parce que j'ai trouvé ça très bien et que j'ai trouvé ça aussi adapté à Rémi. C'est un guitariste qui s'appelle Yakub Ziteki, qui est un mec qui
très,
est
très fort.
Qui est, tu vois? Eh ben, super. Et qui fait beaucoup de choses sur YouTube notamment. Pardon?
C'est le poteau.
C'est un pote même?
Ouais, c'est un pote.
Ah, tu le connais bien?
Ouais, on a bu des whisky coca en Angleterre.
Trop bien!
Dans un vieux.
Eh ben, écoute, incroyable.
Festival.
Et il se trouve que ce Yaku, je sais pas comment il faut prononcer.
J'en ai aucune idée.
A sorti un album assez récemment. C'est en février dernier, tu vois, février 2023. Mm-hmm. Et qui est un album de gratteux, mais pas que, en fait, parce que j'aime bien, il fait partie de nouvelle génération de guitaristes qui sont très très forts, d'excellents techniciens, mais qui font une musique qui est pas que pour les guitaristes. Parce que c'est un peu le risque parfois, quand même, de ce genre de truc. On peut retrouver d'ailleurs dans les façons de jouer des trucs un peu à délire Polyphia, Tim Henson, etc. Mais il a un jeu un peu plus varié. Et un peu moins guitare centrée d'ailleurs que ce que devient Polyphia aujourd'hui, je trouve. Bref, le morceau s'appelle Future Shock et je trouve ça très très bien. Avec la Wami là, c'est bien stylé, c'est un jeu moderne, il est capable de... Il a plein de diverses techniques très stylées.
Voilà. Dans le style, il y a Pliny.
Bien sûr. De toute façon, tous les guitaristes un peu modernes, j'essaye de suivre. C'est stylé. Oui. Beaucoup de mecs qui viennent de YouTube d'ailleurs, et c'est assez cool. Et c'est une génération qui en fait a inspiré tellement de trucs musicalement différents que ça fait un peu revivre la guitare, ça fait plaisir, tu vois.
Et Polyphia aussi qui a envoyé des trucs très très lourds récemment.
Et alors, c'est vrai récemment, il faut que j'écoute ce qu'ils ont sorti vraiment très récemment, parce que moi j'ai découvert Polyphia avec Goat, comme beaucoup de gens, et j'ai adoré ça, et après ils ont sorti plusieurs morceaux cool. Et puis j'ai eu une petite, tu vois, ils ont sorti un morceau avec Vi, etc. Ça redevenait un truc de gratteux, j'avais l'impression. Okay. Tu vois,
j'ai adoré le truc avec Vi. Et le dernier, du coup, il y a des morceaux avec pas mal de voix, pas mal de chanteurs, chanteuses. Donc peut-être ça peut te plaire un peu plus.
Il faut
moi, ce côté shred.
Ouais, et puis il y avait ce côté influence un peu trap rap, etc. qu'ils n'ont pas toujours exploré, continué à explorer. Je crois que le dernier truc que j'ai kiffé, c'était Immanson seul. C'était, tu sais, ils ont un plugin chez Neural DSP pour la guitare, une simulation d'ampli Immanson. Et ils avaient fait une vidéo et un morceau Immanson dessus que j'ai trouvé trop bien, tu vois, alors que c'était une promo, mais le morceau est trop cool. Bref, voilà, je parle beaucoup trop.
C'est parti direct dans un niche, là.
Bah, c'est les guitaristes, que veux-tu.
Alors, c'est ça qu'on ressent quand on comprend rien. Okay,
c'est pas Daft Punk, là.
Non, là, clairement pas, là.
Les amis, encore merci The Algorithm, Rémi Gallego.
Merci à vous, c'était très cool.
C'était trop bien. Un gros SO à Kid Katana aussi qui a permis cette rencontre.
Bien sûr.
Et qui a donc bossé sur l'OST de The Last Spell. Allez jouer à The Last Spell, c'est toi qui fais la musique de The Last Spell. Merci évidemment à La Bouclette qui s'occupe de la technique de ce podcast.
Bien sûr, Sam et Flav en régie.
Absolument, c'est nos gars sûrs. Merci Daz aussi.
Merci Salman.
Mais écoute, ça me fait plaisir.
Merci à François.
François évidemment au montage. François qui se récupère les merdes, le pauvre, tu vois, genre il y a un petit changement, un quart d'heure en coupe, bah il va devoir gérer, François.
Et voilà, on pense à lui très fort.
Mais on est avec toi, François.
SO évidemment à Thoman.
Thoman.
Sans qui cette émission.
Tu as vécu à Berlin, possible. Tu veux pas dire un petit mot en allemand à nos amis de Thoman qui...
Dankeschön, Thoman.
Oui, ouais. T'as vécu en Allemagne, ça,
ça marche, mais moi j'ai compris, et ça c'est cool.
Évidemment, Thoman, sans qui cette émission n'existerait pas, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, et on les remercie pour ça. Et puis merci aussi évidemment à nos auditeurs, nos spectateurs sur
toujours
YouTube.
Plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, taper la cloche, laisser des commentaires. On les lit tous, on shoot ceux qu'on n'aime pas.
On va continuer, j'aime ça. Vas-y.
Ouais. Non, alors en vrai de vrai, on n'a pas tant de commentaires négatifs que ça parce que cette émission est excellente.
Oui.
C'est vrai. Non, c'est vrai. On n'a pas de.
C'est une grande émission. On peut le dire.
C'est réel.
Ouais. Donc, continuez. Voilà. Parlez-en à votre famille. C'est disponible en podcast. C'est disponible sur YouTube. C'est un jour peut-être, ça sera disponible en live Twitch. Je ne sais pas. Je ne veux pas déflorer le business plan. Mais
il y a des pour, il y a des contre, Daz.
Je
que vous en pensez.
Ouais. Tiens, voilà.
En commentaire. Est-ce qu'il faut DLT en live Twitch ou pas? Et puis, on pense toujours à cette petite idée de vous proposer une playlist avec tous les morceaux qu'on écoute dans chaque épisode. On va peut-être faire une espèce de grande playlist DLT où on fout tout, n'importe comment. Mais c'est aussi ça DLT, c'est de la curiosité, c'est de la diversité.
C'est foutraque.
Je me bien. À dans 15 jours. Bye.
Ciao.
Bye.